en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il y a 4 milliards et demi d'années naissait le système solaire dans une nébuleuse solaire. Toutes les particules de cette nébuleuse, restes d'une supernova, une grosse étoile autrement dit, se sont mises tranquillement à tourner et à s'attirer les unes les autres. À force de tournoyer, ce nuage s'est échauffé et au centre, la matière s'est contractée sur elle-même, ce qui a donné naissance à une étoile, notre Soleil. L'Académie des sciences s'est penchée sur le processus de naissance des planètes à partir des nouvelles connaissances acquises dans un colloque consacré à la formation du système solaire, c'était en février 2007. Au cours de 4 retransmissions, nous vous proposons de retrouver l'intégralité des communications. Dans cette troisième partie, penchons-nous sur la naissance des planétésimaux et de leur croissance, devenant ainsi planètes. Les 6 intervenants évoqueront tour à tour le rôle des impacts dans l'histoire primitive des planètes, l'histoire géologique de l'eau sur Mars, la différenciation des planètes telluriques, la croûte terrestre primitive, la différenciation de l'atmosphère de la Terre et enfin les planètes extrasolaires. Commençons par la communication d'Alessandro Morbidelli de l'Observatoire de Nice. Quel a été le rôle des impacts dans l'histoire primitive des planètes? Élément de réponse avec l'astronome italien.
Donc, ma conférence va être consacrée à la question des planètes telluriques. Donc, je vais commencer en parlant de la formation des planètes telluriques par impact géant. Ensuite, je parlerai des impacts après la formation des planètes pour arriver enfin à discuter du fameux bombardement tardif. Donc, les astronomes pensent que les planètes telluriques se font essentiellement à 2 étapes. Dans la première étape, à partir d'un disque des planétésimaux, on forme une population intermédiaire qu'on appelle la population des embryons planétaires, comme illustré par la simulation ici. Alors, tout au cours de mon exposé, toutes les simulations que je vais vous montrer seront représentées de la même façon, par des panneaux comme celui-ci, qui montrent la distribution des particules du système par rapport aux demi-grands axes et à l'excentricité de leurs orbites. Et chaque particule est représentée par un point dont la taille est proportionnelle à la masse. Donc au départ, on part d'un disque des planétésimaux sur des orbites qui sont pratiquement circulaires. Donc les planétésimaux, c'est des petits objets, il faut penser plus ou moins aux astéroïdes, donc il y en a de plus ou moins gros. Et évidemment, les planétésimaux les plus gros ont plus de gravité, donc ils peuvent plus facilement attirer vers eux les planétésimaux voisins et donc grossir davantage. Du coup, ils deviennent encore plus massifs, donc ils peuvent encore mieux attirer leurs voisins. Et donc, comme dans un monde capitaliste, les riches deviennent toujours plus riches, dans le monde des planétésimaux, les plus gros deviennent toujours plus gros. Donc, ce qu'on assiste, c'est qu'en un temps de l'ordre de 10 000 à 100 000 ans, on a la formation d'une distribution de masse bimodale avec quelques gros corps, qu'on appellera justement les embryons planétaires, dont la masse est de l'ordre de la masse de la Lune, peut-être la masse de Mars, moyennant les hypothèses, et qui se retrouvent sous des orbites pratiquement circulaires, immergés dans les disques des planétésimaux restants, que eux n'ont pas beaucoup grossi par rapport aux conditions initiales, mais dont l'orbite a acquis une certaine excentricité sous l'effet des perturbations des embryons. Bon, il ne faut pas confondre les embryons avec les planètes telluriques. Donc, comme je disais, ils ne sont pas assez massifs, masse de la Lune, peut-être maximum masse de Mars, ils se forment très vite, on a vu, de 100 000 ans, et ils sont très rapprochés entre eux, quelques centièmes d'unités astronomiques, donc sont bien trop proches l'un de l'autre, sont bien trop nombreux. Donc, pour former les planètes telluriques, il faut passer à une deuxième étape, où, en partant d'un système qui est fait d'embryons et de planétésimaux. Donc, dans notre groupe, à Nice, on a effectué pas mal de simulations de cette deuxième étape, donc l'assemblage des planètes telluriques en partant d'un système d'embryons et planétésimaux. Ici, je vous montrerai une animation. Donc, typiquement, nous démarrons d'un système d'embryons, ici représenté en rouge, dont 25 embryons de masse martienne, qui sont immergés dans un disque des planétésimaux qui a la même masse totale, donc 2,5 masses terrestres, entre 0,5 et 4 unités astronomiques, et le disque des planétésimaux est modélisé par 1000 particules qui sont représentées en vert. On suppose que Jupiter était déjà formé, parce que Jupiter, on a vu, se forme très très vite à l'intérieur du disque des gaz, et dans cette simulation, on suppose qu'il est déjà à l'orbite actuelle. Ces deux courbes pointillées représentent les bords de la ceinture des astéroïdes telle que nous la connaissons aujourd'hui, par référence. Donc là-haut, c'est le temps de la simulation. Donc quand on démarre la simulation, on assiste à que les perturbations mutuelles entre les embryons excitent la dynamique du système. Donc les orbites qui sont initialement très circulaires deviennent assez excentriques. Donc les orbites des embryons s'intersectent les unes des autres, ce qui amène à des collisions constructives qui vont former des objets, des protoplanètes, de plus en plus grands, dans la région interne du système. Dans toutes les simulations, on voit que les embryons initialement de la ceinture des astéroïdes quittent la ceinture des astéroïdes. On n'a jamais la formation d'une planète tellurique à l'endroit de la ceinture des astéroïdes. Et en partant, les embryons amènent avec eux la plus grosse partie des planétésimaux originaux. De façon que dans la ceinture des astéroïdes reste environ 1% des planétésimaux au départ, avec des orbites qui sont suffisamment excitées en excentricité et en inclinaison, plus ou moins comme les orbites des astéroïdes que nous connaissons. Et les planètes, on les forme seulement dans les systèmes internes. Typiquement, les simulations forment des 3 à 4 planètes, dont les plus grosses sont typiquement la masse, de l'ordre de la masse de la Terre. Ces planètes se forment initialement sous des orbites assez excentriques, mais ensuite l'interaction avec les planétésimaux restants, qui vont disparaître sur des échelles de temps plus longues, amortit les excentricités des planètes telluriques et conduit donc un système assez semblable à celui que nous connaissons. Donc une leçon à tirer de ces simulations est que la croissance des planètes telluriques s'est faite essentiellement par collision géante, par collision entre embryons. Entre 80 et 90% de la masse des planètes telluriques vient des collisions d'embryons et seulement de 10 à 20% vient de l'accrétion des planétésimaux. Donc des collisions comme celle protolunaire que tout le monde connaît n'est pas un événement exceptionnel, c'est la norme en fait, c'est le mode de croissance typique des planètes telluriques. Donc évidemment, en regardant la simulation avant, vous avez vu, on n'obtient pas tout à fait les systèmes solaires, les simulations, la dynamique est chaotique, on ne s'attend pas du tout à tomber pile poil sur notre système, on ne s'attend pas non plus que chaque simulation, même si initialement les conditions initiales sont très semblables, aboutissent exactement au même système. Donc ici, je vous montre en bas notre vrai système solaire, les 4 planètes, représentées par rapport à leur demi-grand axe, leur inclinaison. La petite barre d'erreur là, c'est l'excursion Pirelli à Félie, donc c'est une indication de l'excentricité. Les 4 panneaux plus hauts montrent 4 systèmes solaires synthétiques qu'on a obtenus dans des simulations et à vous d'œil sont assez semblables au vrai système réel. Alors pour quantifier un peu mieux, normalement on utilise un indicateur qui s'appelle les déficits du moment angulaire, un déficit du moment cinétique, qui est la différence entre les moments angulaires du système planétaire qu'on a produit par rapport au moment angulaire que le même système planétaire aurait si toutes les orbites étaient circulaires et coplanaires. Alors pour notre système solaire, les déficits de moment angulaire est de 1,8 × 10⁻³. Alors auparavant, les meilleures simulations qui avaient été faites en 2001 par John Chambers donnaient un déficit de moment cinétique bien plus élevé, 7 × 10⁻³. Ça veut dire des planètes systématiquement trop excentriques, trop inclinées. Et la raison était que ces simulations prenaient en compte l'interaction des embryons entre eux, mais pas l'interaction des embryons avec les petits corps. Donc nos simulations actuelles sont les premières, grâce aux ordinateurs plus puissants, prend en compte aussi l'interaction avec les planétésimaux. Et vous voyez qu'on obtient un déficit de moment cinétique qui est bien inférieur à celui qu'on obtenait auparavant et qui est même légèrement inférieur à celui du vrai système solaire. Concernant les temps d'accrétion, ces diagrammes montrent pour toutes les planètes que nous avons fabriquées dans les simulations, donc la masse par rapport à la masse finale en fonction du temps. Donc les temps médians du dernier impact géant, donc embryon sur protoplanète, est de l'ordre de 30 millions d'années, et les temps médians d'acquisition de 90% de la masse totale est de l'ordre de 40 millions d'années. Et ces temps sont 3 à 4 fois plus courts que dans les simulations de la génération précédente. Et sont aussi en très bon accord, au moins qualitatif, avec les indications des chronomètres, que vous connaissez mieux que moi, comme l'hafnium tungstène et le iode xénon. L'hafnium tungstène donne un temps de différenciation de la Terre et de la Lune de 30 millions d'années, donc semble suggérer qu'après 7 ans, de 30 millions d'années, il n'y a plus eu de gros impacts sur Terre. Et les chronomètres iode xénon montrent que la Terre a subi des fuites atmosphériques jusqu'à 100 millions d'années. Et vous pouvez voir en fait qu'après les temps médians de la dernière collision, il y a encore une phase qui perdure jusqu'à environ 100 millions d'années, où les planètes grossissent tout doucement par accrétion des planétésimaux. Donc on peut peut-être supposer que là on a un taux d'impact très fort, suffisamment d'énergie pour avoir des pertes atmosphériques, mais pas assez pour redéclencher, réalimenter les processus de différenciation de noyaux manteaux. Et donc les sidérophiles qu'on trouve aujourd'hui dans les manteaux seraient accumulés pendant cette phase entre 30 et 100 millions d'années. Donc ces résultats sont très encourageants, mais il y a mais. Donc ils ont été obtenus en supposant que Jupiter et Saturne avaient déjà leurs orbites actuelles, en particulier avec leur excentricité, qui est certes petite, mais non nulle. Alors que tout nous laisse penser que Jupiter et Saturne devraient s'être formés sur des orbites pratiquement circulaires. Et si on met des orbites pratiquement circulaires pour Jupiter et Saturne dans nos simulations, on obtient des résultats qui ne sont pas si bons. On obtient un déficit des moments cinétiques qui est de 3-10-3, donc 60% plus élevé que celui du vrai système solaire, donc des planètes un peu trop excentriques, un peu trop inclinées. Et les temps médians du dernier impact est plutôt de l'ordre de 100 millions d'années plutôt que 30. Mais bon, on a vu que l'élément clé est vraiment prendre en compte l'interaction entre embryons et planétésimaux. Alors, dans nos simulations, nos disques des planétésimaux est simplement représenté par 1000 particules, ce qui évidemment est assez crude par rapport à la réalité. Donc, il est possible qu'une nouvelle génération de simulations numériques, et d'ailleurs en cours, où on prendrait en compte plus des planétésimaux, individuellement plus petits, et qui sont peut-être régénérés lors des collisions entre les embryons, pourrait aboutir à des meilleurs résultats, tout en partant d'un Jupiter et Saturne, initialement sur une orbite circulaire, mais ça c'est du domaine du futur. Une autre chose intéressante à tirer de ces simulations est les modes d'accrétion des planètes. Tandis que les embryons planétaires se forment localement, c'est-à-dire en accrétant des planétésimaux initialement dans leur voisinage, la formation des planètes telluriques brasse en fait la matière depuis une grande région de l'espace héliocentrique, et ceci en particulier quand Jupiter est initialement sur une orbite circulaire. Donc ici, par exemple, je vous montre les planètes que nous avons obtenues dans quatre simulations. Chaque camembert est une planète. Et les codes couleurs montrent quelle fraction de la masse finale de la planète vient d'où. Et comme vous voyez, toute planète incorpore une fraction de 10, 15, 20% des matières qui initialement vient de la ceinture des astéroïdes, voire de la ceinture des astéroïdes externes. Donc la ceinture des astéroïdes externes, comme vous savez, est habitée par les chondrites carbonées qui sont riches en eau. Et donc, nous avions déjà proposé dans les passés que celui-ci pourra être un mécanisme pour former, dans la région des planètes telluriques, là, normalement, on devrait pas y avoir de l'eau, des planètes qui ont initialement un bon budget en eau. Alors, cette eau est amenée par les embryons, en plus grosse partie, donc est amenée pendant la formation des planètes. Donc, c'est pas vraiment les scénarios du vernis tardif qui étaient chers aux astronomes d'auparavant. Les vrais vernis tardifs et la matière accrétée après les derniers impacts géants, comme je disais tout à l'heure, c'est seulement 1 à 10% de la masse de la planète, et en plus, à plus de 90%, on vient plutôt de la région des planètes telluriques. Donc l'eau viendrait avec l'accrétion des planètes, et pas sous forme d'un vernis tardif. Donc une fois qu'on a formé les planètes, on avait vu dans la simulation, il y avait encore un peu de planétésimaux autour, bon, il y a ceux dans la ceinture des astéroïdes qui vont rester, bien sûr, mais les autres vont partir, et vont partir assez vite. Donc ça vous donne, ce diagramme vous donne, issu d'une simulation numérique, la cratérisation, la chute de la cratérisation attendue en fonction du temps, donc dans une échelle arbitraire. Donc ça chute de 2 ordres de grandeur en 100 millions d'années, de 6 ordres de grandeur en 800 millions d'années. Pourtant, la Lune, comme M. Allègre l'a rappelé, a des impacts, montre des bassins lunaires, ce sont des impacts géants, de 200 km de diamètre au plus. Et les missions Apollo ont permis une datation des bassins. On a découvert que beaucoup de bassins se sont formés dans un intervalle de temps assez court, entre 3,9 et 3,8 milliards d'années. Alors, il y a pas mal de disputes sur l'âge des bassins, certains, pas tout le monde est d'accord, mais il y a ces deux bassins pour lesquels il n'y a pas de discussion, c'est Imbrium et Oriental, donc ils sont formés à 3,85 et 3,80 milliards d'années. Donc, vu le taux de décroissance de la population des planétésimaux que je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir deux grands impacts, 650 millions d'années plus tard, la formation de la Lune, et après plus rien, mais la probabilité de ça est pratiquement zéro. Donc ça veut dire qu'en fait, sur les déclins exponentiels du bombardement, il doit s'égreffer un épisode des bombardements très intenses, d'une intensité égale à 10 000 jusqu'à 100 000 fois le taux de bombardement actuel. Et c'est ces pics de bombardement qu'on appelle les grands bombardements tardifs ou les cataclysmes terminaux. Mais évidemment, c'est pas du tout évident de comprendre d'où peut venir. En fait, l'existence d'un bombardement tardif défie notre vision naïve d'un système solaire qui évolue graduellement du chaos primitif vers l'ordre actuel. S'il y a eu quelque chose de ce type 650 millions d'années plus tard après la formation planétaire, ça veut dire que le système solaire était différent et que quelque part devait y avoir un réservoir de petits corps qui a su conserver sa masse primitive jusqu'à ce moment-là, étant stable, et tout d'un coup est devenu instable et les planétésimaux sont partis. Alors comment est-ce possible? Donc on a essayé de modéliser ça, c'était un grand effort, et on a abouti à un modèle il y a 2 ans. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, parce qu'on a vu que lors de la formation des planètes telluriques, la ceinture des astéroïdes est dépeuplée. Donc le seul endroit où on peut trouver encore un disque massif des planétésimaux est très loin, dans les frontières externes du système solaire. Notre modèle a des hypothèses, bien sûr. Donc l'hypothèse est qu'au-delà des planètes géantes, des 4 planètes géantes, il y avait un disque des planétésimaux massifs d'environ 30-50 masses terrestres, que les planètes géantes étaient initialement sous des orbites circulaires, comme la théorie nous l'indique, bien plus rapprochées les unes aux autres. Et en particulier, on va supposer que Saturne était plus proche de Jupiter que leur résonance mutuelle 2-1, qui a lieu quand les rapports entre les périodes orbitales sont égales à 2. Donc si on part d'un système de ce type et on laisse évoluer la simulation, on voit que la partie interne du disque des planétésimaux est déstabilisée par la dernière planète, donc on a la formation de ces structures qu'on appelle un disque dispersé, à partir duquel les planétésimaux peuvent s'échapper et rentrer à l'intérieur du système solaire, un peu au compte-gouttes. Et l'interaction entre ces planétésimaux qui s'échappent et les planètes, en fait, écarte légèrement les planètes les unes par rapport aux autres. Donc les planètes migrent, en particulier Uranus et Neptune et Saturne vers l'extérieur et Jupiter vers l'intérieur. Et ce processus très calme peut continuer pendant un temps très très long, jusqu'à quand il y a quelque chose de dramatique qui se passe. Et dans notre modèle, la chose dramatique qui se passe aura lieu quand Saturne traversera la résonance 2-1 avec Jupiter. Alors, dans cette simulation spécifique, ça aura lieu à 880 millions d'années. Mais ceci, évidemment, dépend des conditions initiales. On peut avoir des transitions entre 300 et 1 milliard d'années facilement. Et donc voilà, dès que Saturne traverse la résonance 2-1 avec Jupiter, Saturne et Jupiter acquérissent une excentricité orbitale qui déstabilise Uranus et Neptune, qui deviennent très excentriques. Donc elles pénètrent dans les disques, elles détruisent très rapidement les disques, en dispersant les planétésimaux partout. Et l'interaction entre les planètes et les disques, éventuellement, gare les planètes sur des orbites très semblables aux orbites actuelles. Donc vous pourrez penser que bon, ça c'est juste une simulation, c'est très chaotique, donc c'est un coup de chance qu'à la fin on ait un bon système solaire. En fait, il y a des lois statistiques derrière les chaos. Donc si on fait des dizaines de simulations, on arrive assez bien statistiquement à reproduire les orbites des planètes géantes. Donc ici en bleu, je vous montre les vraies orbites des planètes géantes par rapport aux demi-grands axes, à l'excentricité et à l'inclinaison par rapport au plan de Jupiter. Et en rouge, c'est la moyenne des valeurs orbitales des quatre planètes géantes que nous avons obtenues en 15 simulations numériques, et les barres d'erreur, c'est l'écart type, parce qu'évidemment, pas toutes simulations donnent les mêmes résultats. Mais, en moyenne, on retrouve bien l'architecture du système solaire externe. Pour ce qui concerne les bombardements, c'est évident que quand Uranus et Neptune pénètrent dans les disques et dispersent les disques, il y a un grand flux de planétésimaux dans les systèmes solaires internes. Donc ces planétésimaux initialement transneptuniens, on les appelle comètes. Donc il n'y a pas grand-chose qui arrive dans le système solaire jusqu'à quand Jupiter et Saturne traversent la résonance, donc ici à 880 millions d'années, mais ça c'est un peu ajustable, disons, c'est tardif, c'est ça qui est l'important. Et après on a un grand flux de planétésimaux sur une échelle de temps assez courte, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années. Mais aussi Jupiter et Saturne se déplacent parce qu'ils vont aller de cette résonance vers leur position actuelle, qui est proche de la résonance 2-5. Et donc ces déplacements peuvent aussi chasser des astéroïdes. En fait, il y a 9 astéroïdes sur 10 qui part de la ceinture à ce moment-là. Alors les simulations de la formation de planètes telluriques aboutissaient à une ceinture des astéroïdes d'environ 1/100 de la masse de la Terre. Il y a encore 9 astéroïdes sur 10 qui part. Donc à la fin, on a une ceinture d'astéroïdes de 1/1000 de la masse de la Terre, qui est tout à fait compatible avec la masse estimée actuellement. Donc la masse totale qui frappe la Lune est de l'ordre de 10 puissance 22 grammes sur un temps de 100-150 millions d'années, qui est consistante avec les records des cratères et aussi avec la quantité d'éléments sidérophiles qu'on retrouve à la surface de la Lune. Donc pour conclure, j'espère de vous avoir convaincu que les planètes telluriques, les collisions sont fondamentales et primordiales pour les planètes telluriques. Les planètes telluriques se forment par une série de collisions géantes entre embryons planétaires sur une échelle de temps que, selon le chronomètre hafnium-tungstène, devrait être d'une trentaine de millions d'années, et on se bat pour essayer de la reproduire dans les simulations numériques. Ça veut dire aussi donc que l'impact protolunaire n'est pas un événement unique, exceptionnel, c'est un peu la norme, c'est le mode de croissance des planètes, en fait. Après les derniers impacts géants, les planètes peuvent encore avoir un vernis tardif, donc acquérir quelques pourcents de leur masse par collision avec des planétésimaux, sur une échelle de temps d'environ 100 millions d'années. Et ensuite, les taux de bombardement déclinent très vite, jusqu'à quand, 650 millions d'années plus tard, il y a le fameux bombardement tardif, que selon notre modèle, évidemment c'est un modèle, est dû à l'instabilité orbitale des planètes géantes, en interaction avec un disque des planétésimaux massifs, qui était le disque transneptunien primitif, l'ancêtre de l'actuelle ceinture de Kuiper. Donc ces bombardements tardifs restructurent les systèmes solaires et donnent au système solaire sa structure actuelle. Et il s'agit évidemment d'un événement global, vu que le flux planétésimaux vient du système solaire externe, et donc il devrait avoir concerné pas seulement la Terre et la Lune, mais toutes les planètes telluriques, donc y compris Mars, et aussi les satellites, y compris les satellites des planètes géantes. Et donc, à mon avis, il y a une véritable chronologie basée sur la cratérisation à rebâtir pour tous ces différents corps du système solaire. Donc je vous remercie et je voudrais juste faire une petite publicité dans le sens qu'on est en train d'organiser pour la première semaine du février 2008 aux Ouches encore une école sur la chronologie de la formation du système solaire qui devra être justement consacrée cette année à la création des planètes et des satellites des planètes géantes. Merci.
Vous venez d'entendre Alessandro Morbidelli de l'Observatoire de Nice. Il s'exprimait sur le rôle des impacts dans l'histoire primitive des planètes. Intéressons-nous cette fois-ci à Mars. Mars et l'histoire géologique de l'eau sur cette planète. Tout de suite, les détails de Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale.
Je vais parler rapidement de ce que l'on savait de cette affaire de géologie martienne avant que les missions actuelles ne soient en opération. C'est vrai qu'il y a bien longtemps, c'est pas une science récente, mais vous allez voir qu'il y a un bain de jouvence qui a profondément renouvelé la compréhension que l'on a de cette histoire primitive, on peut dire, de l'eau sur Mars. Quelques résultats de minéralogie et ensuite l'histoire que l'on peut en déduire. Donc, tout ça part, bien sûr, de ce que chacun sait, à savoir que les missions Viking ont montré un tas de structures comme ça qui font penser que dans le passé, il y a de l'eau. Et vous voyez que cette eau a coulé essentiellement d'un terrain cratérisé. Et bien sûr, il est majeur pour la discussion de réaliser que sur Mars, on a encore la moitié de la surface où ce genre de structure existe. Il n'y avait pas de légende, vous ne sauriez pas que c'est martien. Mars n'a pas remis à zéro entièrement la mémoire de ce bombardement dont Alessandro a parlé. Et c'est bien sûr tout à fait fondamental pour les missions futures, puisque si l'on recherche à la surface de Mars des terrains qui datent précisément d'un bon 4 milliards d'années, c'est-à-dire contemporain du moment où l'eau est apparue, où la vie est apparue sur Terre, on sait qu'ils existent. Ce que je vais vous dire dans un instant, c'est que ces terrains-là apparaissent comme des terrains anciens au niveau de leur structure, ça ne dit pas qu'ils sont anciens au niveau de leur composition. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, ils le sont aussi, et que ces terrains ont gardé l'essentiel de l'information de l'époque. Donc, de l'eau qui a coulé, il y en a énormément de sortes, c'est toujours dans des terrains cratérisés, y compris dans les cratères récents, comme vous le savez. Et donc, c'est ça qui a conduit à cette image, en fait, fondamentalement biaisée que la NASA nous a imposée pendant plusieurs décennies, qui est que si on avait fait une image de Mars il y a 4 milliards d'années, c'est ça qu'on aurait vu avec un océan profond. Et c'était vraiment l'idée que les gens se faisaient de la lente évolution d'une planète, où dans le passé, elle était très active, avec tous les ingrédients qu'il fallait pour que l'effet de serre maintienne de l'eau à l'état liquide au-dessus du point triple, et qu'un lent refroidissement finalement du magma et de l'activité interne qui chasse progressivement la planète arrive à ce qu'aujourd'hui les ingrédients initiaux, c'est-à-dire l'eau et le gaz carbonique initialement, disparaissent. Et c'est quand on regarde en fait les indices qui disaient ça, c'était des choses comme ça dont François Cottard qui est dans la salle a beaucoup travaillé, l'idée qu'effectivement les ingrédients d'origine on les retrouverait par exemple pour l'eau dans de la glace souterraine dont ces impacts lobés très distincts des impacts lunaires seraient la trace. Il y en a bien sûr beaucoup, on verra plus tard que c'est peut-être pas tout à fait le cas. Et quand on regarde où effectivement les sondes se sont posées, les sondes américaines, c'est toujours dans le bleu de cette image-là. Il y avait toujours cette idée que si l'on veut savoir ce qui s'est passé sur cette planète initialement, il faut aller là où l'eau s'est retirée. Comme vous le savez probablement, on n'a pas retrouvé de traces de cette glace souterraine encore jusqu'à aujourd'hui, et surtout on n'a pas retrouvé la trace de ces océans sous la forme de gaz carbonique qui aurait disparu. Pathfinder en particulier, qui s'est posé là, vous voyez, au bout d'un des grands écoulements massifs qui a déferlé sur cette planète il y a entre 3,5 et 4 milliards d'années, tout le monde pensait, enfin en tout cas ceux qui ont fait cette mission, qu'on aurait la chance de tomber sur des terrains sédimentaires. Ils ont fait cela et en fait, comme vous le savez, il n'y a pas l'ombre d'un terrain sédimentaire dans ces choses-là. Donc on est arrivé au bout de quelques temps, c'est-à-dire en fait il y a quelques années seulement, avec cette idée que l'histoire de Mars, qui est résumée ici, comme elle a été dans tous les livres depuis très longtemps, telle qu'on la sort, des structures essentiellement faites de trois périodes. La plus ancienne, c'est le Noachien, essentiellement, c'est terrain cratérisé. L'Amazonien, c'est les plaines actuelles et l'Hespérien, la transition. Cette idée, c'est que l'eau avait dû être quelque chose de très important au temps du Noachien, mais on n'en a jamais trouvé la trace, puisqu'on n'a jamais pu trouver la trace des ingrédients d'origine qui auraient été incrémentés depuis. Vous allez voir que l'histoire qu'on se fait maintenant, c'est que vraisemblablement, cette histoire-là est très distincte et que depuis une très grande période, les conditions globales de cette période, de cette planète ont empêché l'eau en fait d'être stable à état liquide pour autant qu'elle l'était au début. Donc quelques résultats qui vont nous permettre de voir ensuite où on en est. Je parlerai bien sûr de ces engins-là qui sont posés et qui sont toujours en opération. Il y en a un qui va mal depuis la semaine dernière, mais ça tourne toujours. Et de celle-ci qui tourne toujours aussi, qui est Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Super petite mission qui attaque la fin de sa deuxième année martienne en opération. Donc, on va discuter très rapidement de la composition minéralogique, comme c'est la première fois qu'on est capable de faire ça, comment à partir des minéraux on peut remonter à l'histoire. Pour l'instant, les structures nous disent bien quelque chose, mais sans la composition on était mal. Et pour la première fois, on commence à avoir une idée de la composition, malgré le fait qu'on pouvait penser que la poussière recouvrerait tout. En fait, c'est pas vrai du tout. On a accès à la composition. Et la première question, c'est, puisque cette planète est essentiellement faite de magma et de volcans, initialement, est-ce qu'on a encore accès à des phases non altérées? Et la réponse, c'est que quand on regarde sur cette superbe planisphère où les couleurs représentent des altitudes et qu'on voit ici en rouge, c'est-à-dire les plateaux les plus hauts qui sont les terrains anciens cratérisés dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont représentés ici dans tout ce qui n'est pas bleu, il y a toujours ce biais de mettre en bleu ce qui est le plus profond pour une raison que vous imaginez. Eh bien, quand on regarde, c'était d'ici qu'il y avait cette carte-là, quand on fait, nous, la carte de la composition des roches, ce qu'on appellerait les roches mafiques, les roches ultra-basiques, ici j'ai les pyroxènes, mais pour les levines c'est pareil, que ce soit les clinaux et les orthopyroxènes, je vous le montrerai dans un instant, on a toujours la même idée, à savoir que la croûte a gardé la composition d'origine. On a dans la croûte lunaire, la croûte martienne, pardon, accès encore aux matériaux non altérés. C'est un des paradoxes de cette planète que les terrains les plus anciens sont les terrains les moins altérés. Ceux qui ont eu plus de 4 milliards d'années pour se modifier ont gardé leur structure, aussi bien au niveau de la structure de terrain que de leur composition. Voilà la carte des orthopyroxènes, voilà la carte. Et bien sûr, j'ai pas le temps de discuter parce que c'est pas le but aujourd'hui de ce que l'on déduit de la, en particulier du taux relatif clino-orthopyroxène là-dessus, mais on peut vraiment voir deux étapes dans l'évolution de cette planète, la formation d'une croûte où essentiellement ortho et clinopyroxène étaient enfin, à peu près en égale abondance, c'est-à-dire essentiellement le MGF et CA à peu près dilués de la même manière. En revanche, dès qu'on a eu les premières effusions magmatiques, on s'est aperçu qu'on est parti d'un magma relativement peu différencié avec un grand enrichissement en calcium, et c'est pour ça qu'on a les clinopyroxènes qui dominent dans ces terrains magmatiques. Je vous en montre ici juste un exemple parce que j'en aurai besoin dans un instant. Voilà une superbe interface entre tout autour ces terrains cratérisés et au centre, vous voyez, de Nilipatera, qui est le volcan du centre qui a donné ces terrains qui sont des clinopyroxènes bleutés, très riches en calcium. Mais encore une fois, on trouve cette abondance des matériaux d'origine. Mais ce que j'ai mis en rouge ici, c'est que quand on regarde cette carte-là, évidemment, tout ce qui est en noir, c'est les terrains où on ne les voit pas. Donc la moitié de la surface de Mars a effectivement été altérée. La grande question était de savoir, bien sûr, quels sont les processus qui ont géré l'altération de la surface, qui n'a encore une fois affecté pas les hauts plateaux cratérisés, mais tout le reste, pour l'essentiel. Et donc, quand on regarde ces phases altérées, voilà la carte des pyroxènes de tout à l'heure, voici la carte d'albédo globale. Vous voyez qu'il y a une anticorrelation entre le rouge qui est essentiellement dans le sombre du haut. Et effectivement, quand on regarde la composition, comme je mets ici, des oxydes ferriques, on arrive à cette conclusion que ce qui est blanc et rouge là-haut, cette poussière rouge que l'on voit ici, sont effectivement des oxydes ferriques. Quelque part, ce n'est qu'une confirmation de ce que l'on savait, puisque les gens ont toujours pensé que si Mars est rouge, c'est que ça a été rouillé. La chose importante, bien sûr, c'est qu'on s'est posé la question de savoir si la rouille a été faite par un processus d'altération aqueuse. En d'autres termes, est-ce que ce sont des hydroxydes ou des oxydes? Et la réponse est dans cette carte qui est un des plus beaux, peut-être, résultats obtenus depuis 2-3 ans, qui est la carte à la surface de Mars de tous les endroits où on trouve des minéraux altérés par de l'eau, puisque on a accès à l'hydratation d'une manière assez simple dans l'infrarouge proche. Et le résultat important ici, c'est qu'on trouve effectivement des minéraux altérés par l'eau, des hydrates donc, sur lesquels je vais revenir dans les minutes qui suivent. Mais la chose importante, c'est que tous les terrains sombres du haut, vous voyez, qui sont les terrains altérés, ne sont absolument pas hydratés. En d'autres termes, ce n'est pas l'eau qui a donné à Mars cette couleur rouge. Et si Mars est rouge, c'est parce qu'effectivement, il y a une peroxydation, mais c'est une peroxydation par le H2O2 extrêmement ténue de l'atmosphère, il n'y en a que 10 ppb pour l'instant, si bien que c'est une altération extrêmement superficielle qui demande de très grandes constantes de temps, et c'est pour ça en fait que les hauts plateaux ne sont pas encore rouges. Si on attend 2 à 3 milliards d'années, Mars sera évidemment toute rouge, et ça se voit ici. Dès que vous voyez un rover qui bouge, vous voyez qu'un petit bêchage met en surface le matériau d'en dessous qui n'a pas été modifié, et vous voyez ici à l'échelle de quelques centimètres, lorsque Spirit a fait une petite brèche, eh bien on voit très bien que la couche superficielle ne fait que 10 à 20 microns, c'est ça qui explique que nous, on ne voit pas de l'olivine quand on regarde la couche orange. Eux voient de l'olivine quand ils mesurent aussi bien la couche orange que le sable en dessous, essentiellement parce que la couche ne fait que 20 à 30 microns et que le Mohs Bauer passe à travers. Donc, effectivement, la couche d'altération est extrêmement réduite, et c'est une erreur de penser que cette couche d'altération traduit le fait que cette planète a été remplie par de l'eau. C'est essentiellement de l'hématite alpha et F2O3 qui fait cela. Mais donc, ce sur quoi je vais en venir pour arriver au début de cette histoire de planétaire, c'est que, comme on va le voir, ces oxyde ferrique, c'est ce qui domine dans l'altération depuis 3,5 milliards d'années, une altération donc sans eau. En revanche, on a bien détecté deux classes de minéraux hydratés, pas celui qu'on cherchait, c'est-à-dire pas les carbonates. Il n'y a pas de piège du CO2 initial, et vous allez voir que c'est bien sûr très important, tel qu'on le voit en tout cas aujourd'hui. En revanche, on a trouvé des sulfates et des phyllosilicates, et ils sont représentés ici par des couleurs distinctes. Le bleu et le vert, ce sont les sulfates, et tout le reste, ce sont les argiles essentiellement. Et vous voyez, la première chose importante, c'est qu'on les voit dans des terrains extrêmement différents, et c'est ça que je vais vous illustrer maintenant, parce que les endroits où on les voix disent en fait le processus de formation. Les sulfates d'abord, qu'on a observé en même temps que Opportunity les voyait dans Terra Meridiani, il y a trois endroits et trois endroits seulement à la surface de Mars où on les voit. Je vais vous illustrer ça d'un moment. rapide, bien sûr. Dans Valle Marineris, voici un des dépôts qui est représenté ici par la caméra allemande stéréoscopique. Ça fait 2500 mètres de haut et 50 km de large. Vous voyez, cette énorme structure stratifiée. Eh bien, on a pu montrer qu'en fait, les structures du haut, c'est du gypse, c'est SO4, 2H2O, et le reste, c'est de la kieserite. J'ai pas le temps d'en parler, mais c'est un minéral très intéressant parce que c'est un sulfate de magnésium, et SO4 avec simplement un H2O, très instable. Dès qu'on met de l'eau, ça se modifie. Et c'est tout à fait important, si j'ai le temps, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, de savoir que ça a été stable à la surface de Mars. Autre endroit que j'aime beaucoup, qui est un autre endroit ici, vous voyez une vue 3D ici, voici la répartition de la kieserite à nouveau ici, sur cette carte ici, tous les strates ici sont effectivement des sulfates. Vous allez voir que c'est important dans l'histoire de Mars, mais ça ne dit pas qu'à ce moment-là, quand ça s'est formé, l'eau était stable, comme vous allez le voir, contrairement à ce que la NASA a pu dire. Et là, il y a Terra Meridiani, là où s'est posé le rover, voilà nous ce qu'on a observé de l'espace, voilà ce qui a été observé au sol, et voilà les fameux affleurements de sulfates remarquables qu'a trouvé le rover Opportunity. Voilà la carte locale de nos minéraux hydratés, et c'est en vert et rouge qu'on trouve les sulfates ici. En fait, le rover s'est posé là. Il y a 400 km entre les deux. Si on avait fait la manip avant, alors on aurait dit surtout pas de se poser là, mais en haut à droite. Ils se sont posés là, et nous, on n'a rien vu à cet endroit-là. Et ils ont effectivement beaucoup de chance. Enfin, nous avons tous beaucoup de chance parce que voilà la carte, en fait, du lieu. Les sulfates, c'est en vert. Voilà où on les voit et voilà où ils sont posés. Il y a une couche qui recouvre tout, mais grâce à l'érosion, à l'endroit où ils se sont posés, il y a quelques effleurements qui ressortent, mais les sulfates sont effectivement enfouis dedans. Et c'est ça, cette chose-là. Je vous dirai dans un instant ce que l'on pense sur la formation de ça. Dernier point, on trouve des sulfates, et c'est intéressant pour une toute autre raison qui n'a rien à voir avec le colloque d'aujourd'hui, mais quand même, voilà à la fin de l'été, de la calotte nord, la calotte nord pérenne, donc quand tous les givres ont disparu. En bleu, c'est la répartition de la glace, et vous voyez qu'il y a des endroits où on ne sait pas quel minéral c'est. Eh bien, ici, en fausse couleur, vous avez la répartition d'un minéral particulier qui est un sulfate, qui est du gypse. Et en fait, voilà un photomontage qu'on a publié, vous voyez en rouge les sulfates et en bleu la glace d'eau. Et ça, c'est intéressant parce que nous pensons qu'à l'heure actuelle, cette planète est toujours active, non pas au sens de la lave qui remonte, parce que vraisemblablement les derniers affleurements de lave datent de 20-50 millions d'années, mais on est probablement ici à l'aplomb du dernier point chaud martien où il y a encore du gaz qui ressort, et ce gaz qui ressort, qui est probablement ce qui est à l'origine du fait qu'on a actuellement 10 millibars et pas 2 ou 3 millibars, est aussi plein de soufre, et le soufre réagissant avec les pyroxènes calciques donnent en fait ces dépôts de sulfate. Donc on peut mettre en évidence le fait que cette planète est encore du point de vue gazeux et plus du point de vue magmatique en activité. Dernier point avant de faire l'histoire, qui est peut-être celui le plus intéressant qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé à la surface de cette planète donc des argiles. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les argiles, en tout cas telles qu'on les connaît sur la Terre, c'est un processus d'altération qui requiert de l'eau pérenne, liquide, pendant d'assez longues durées en tout cas, ce qui n'est pas le cas d'un sel comme les sulfates. On a une assez grande variété de composition, mais essentiellement c'est des smectites, MgFe, très peu d'aluminium, et surtout pas le pôle kaolin. On n'a jamais eu d'environnement très acide, c'était un pôle très basique en fait. Il y a deux endroits, je vais vous montrer très rapidement comment et pourquoi on les trouve. Nilifossé, qui est le même endroit que tout à l'heure, quand on fait un agrandissement ici, vous voyez sur la carte de droite l'endroit où on trouve les roches hydratées. Vous voyez tout de suite quelque chose d'intéressant, les roches hydratées, les argiles, ne se trouvent que dans les terrains cratérisés du début. Tout ce qui est moins cratérisé en bas de cette image de droite, qui pourtant c'est de la lave qui est sortie il y a 3,8 milliards d'années, c'est vraiment les premiers effleurements volcaniques, c'était déjà des effleurements volcaniques parfaitement secs. Le volcanisme qui a affecté cette planète a été dès le début un volcanisme très sec. On ne voit les argiles que dans les terrains qui n'ont pas été recouverts par les premiers effleurements volcaniques. Et quand on regarde, on le voit bien ici par ce qui est entouré ici, une zone que j'aime bien ici, donc où on voit à la fois des terrains anciens qui n'ont pas été recouverts et des cratères récents, et vous voyez en dessous tout le reste, c'est l'endroit où la lave est venue, y compris dans le gros cratère en bas qui a recouvert. À gauche, vous voyez où il y a de l'eau, eh bien vous ne trouvez des argiles que dans les terrains qui n'ont pas été recouverts. Tout le reste, y compris les éjecta lobées, sont parfaitement secs. Encore une fois, volcanisme parfaitement sec depuis probablement 4 milliards d'années sur cette planète. Donc, c'est tout à fait fondamental pour l'histoire, on va voir tout après. On a été voir après dans ces vallées de débâcle pourquoi on ne trouve rien quand on est dans la vallée. Voilà l'image très biaisée au niveau de ces couleurs, puisqu'on met du bleu à nouveau dans ce qui est censé avoir coulé de HRSC. Effectivement, de l'eau a coulé pour faire ce canyon. Quand on regarde la composition, voilà à gauche ce que l'on trouve, pas l'ombre d'une roche hydratée, ni dans le cours, ni dans le débouché de cette vallée de débâcle. En revanche, toutes les zones blanches là qui sont plus claires visibles sont des argiles. Et ça, ce que cela veut dire, c'est que ces structures fluviatiles que l'on voit ont été faites par des mouvements très sporadiques et très violents, suffisamment violents pour éroder et mettre à nu les terrains. terrains qui ont été préalablement attaqués par l'eau, là où entre, mais certainement pas suffisamment. Ça n'a jamais été des processus entretenus, et ces fleuves, en fait, n'étaient pas des fleuves au sens terrestre du terme. Ils ont certainement jamais, en tout cas, entretenu d'océan à la surface. Et donc, voilà où on trouve actuellement les argiles. C'est sur les bords et jamais à l'intérieur, et c'est ça qui explique l'échec, si on peut dire, de la recherche des terrains sédimentaires lorsqu'on se pose dans ce que les structures nous indiquent comme tel. Et voilà pourquoi, dans le futur, on espère aller se poser là, et si possible, beaucoup de fois. Et quand on regarde donc à grande échelle ce genre de choses, voilà les terrains où, dans le futur, on espère que ExoMars et MSL iront se poser. Pas de carbonate encore, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi et comment on l'a vu, mais il n'y a pas de réserve de CO2 à la surface de cette planète, ni au pôle sud, où on, vous savez que pendant très longtemps les gens pensaient que la calotte polaire sur une pérenne était du CO2, on a pu montrer qu'en fait il y a bien un film de CO2, mais il fait même pas un millibar équivalent, c'est quelques mètres d'épaisseur sur 4 km de glacier d'eau. L'eau est essentiellement contenue sur Mars sur la forme de ces deux grands glaciers, au nord comme au sud, plusieurs centaines de kilomètres de large, 5 km d'altitude. Il y a aussi de l'eau sous forme de ces roches hydratées que l'on voit, mais il n'y a pas de réservoir de CO2. Alors c'est avec tout ça qu'il faut essayer d'expliquer l'histoire de Mars telle qu'on la voit. Avec les dernières mesures dont je vais parler ici, qui va nous aider, c'est les mesures par Espera qui montrent que le taux d'échappement atmosphérique maintenant est extrêmement réduit, 100 fois moins qu'on l'imaginait il y a encore 10 ans. Donc quelle histoire on peut en déduire ? Il y a trois types, et trois types seulement, de minéraux qui vont permettre de reconstruire cela au niveau de l'altération, formés dans des environnements distincts, par des processus distincts, et donc ils signent en fait des moments distincts. Les roches ignées non altérées à nouveau, on les trouve dans les hauts cratères, et puis il y a ces trois autres, et pas de carbonate. Quand on regarde le contexte géomorphologique, on s'aperçoit que les oxydes ferriques anhydres, ce qui fait rouge à la surface à nouveau, c'est le moins ancien, c'est le plus récent, puisque c'est une altération qui a démarré il y a entre 3 et 4 milliards d'années, qui dure jusqu'à aujourd'hui, mais qui est extrêmement lente. Les roches hydratées se sont toutes formées dans des contextes qui sont antérieurs à cela, d'abord les sulfates, puis tout à fait au début, les argiles. Alors ça, c'était donc l'image que l'on se faisait de l'histoire de cette planète, jusqu'à ce que on introduise une nouvelle image, en tout cas telle qu'on voudrait le faire, à partir essentiellement de la composition des minéraux que l'on trouve. Et vous voyez ici que il y a bien une séquence dans le temps de l'apparition avec des changements climatiques importants qui ont fait que les conditions effectivement ont permis au début d'avoir des argiles, puis des sulfates, puis des oxydes ferriques. On a même donné à ces périodes des noms correspondant aux noms des cailloux qu'on a trouvés là-dedans. Et le plus important, c'est qu'entre le monde des argiles et le monde des sulfates, il y a eu un changement climatique global. Mars a vécu cet événement-là, et je crois qu'il est important de le comprendre parce que c'est là que la divergence des chemins d'évolution de Mars et de la Terre s'est opérée. La Terre n'a pas connu ce changement climatique à cette époque qui a essentiellement fait basculer l'environnement d'un environnement basique à un environnement acide. Au début, l'environnement a permis à l'eau d'être stable à l'état liquide, c'est ce que l'on voit dans les argiles, ça n'a pas duré très longtemps. Les sulfates viennent après dans un monde où il n'y avait déjà plus d'atmosphère et qui était essentiellement dominé, comme on va le voir, par des conditions donc de grande acidité. Alors, je rappelle que le volcanisme martien, contrairement à ce que en fait les images donnent, il a été peu dominé par les volcans eux-mêmes. Les volcans sont tellement énormes qu'on a l'impression que tout a été rempli par ces volcans. En fait, ces volcans, on a de bonnes indications qu'ils ont fonctionné tout au long de l'histoire de la planète, mais à chaque fois pour un petit nombre d'événements et de très faible ampleur, puisqu'on voit encore dans les cratères, les calderas, pratiquement l'ensemble des éruptions volcaniques. Ouais. Le grand événement volcanique, bien sûr, c'est la montée de Tarsis, qui très tôt, aux alentours de 4 milliards d'années, on va dire, a fait cet énorme soulèvement de plus de 10 000 mètres. Enfin, c'est quelque chose de volumineux, énorme, vraiment. En même temps que le remplissage des plaines du Nord, qui est essentiellement un mécanisme de type marée lunaire. Et ce que l'on pense, c'est que c'est cette activité-là qui a essentiellement modifié l'évolution de cette planète. Dernière image pour comprendre le scénario global, c'est bien sûr la carte du champ magnétique rémanent, qui joue un rôle majeur ici. On sait qu'il y a eu un champ magnétique au moment où la croûte s'est solidifiée, puisqu'on le trouve ici, mais vous voyez qu'en haut à droite, quand Tarsis s'est formé, il n'y avait plus de champ magnétique rémanent, et ni quand le remplissage des plaines du Nord dont je viens de parler, qui pourtant sont très anciens, le premier événement volcanique majeur, ça s'est fait alors que la dynamo avait cessé. Et on pense qu'il y a une corrélation entre le fait qu'au début il y avait un champ magnétique, puis le fait que cette dynamo a cessé, qu'elle a été suivie, que l'arrêt de la dynamo a été suivi ensuite, peut-être 50 ou 100 millions d'années après, par la formation de Tarsis, Et il se trouve qu'on trouve les argiles précisément là où on trouve du magnétisme rémanent. C'est-à-dire que la période, la pérennité de l'eau liquide est probablement directement liée au fait qu'on avait un bouclier magnétique important sur cette planète au moment où le soleil, on l'a vu ce matin, était encore un émetteur UV important et le moment où le vent solaire était suffisamment important pour chasser très efficacement l'atmosphère. Dès lors que le bouclier magnétique a cessé, et on ne sait pas quand, mais probablement 100, 200, 300 millions d'années après la formation, cette planète a vu l'ensemble de son atmosphère disparaître, plus de gaz à effet de serre. 50 millions d'années après, Tarsis s'est formé. À ce moment-là, l'énorme dégazage qui a été corrélé à cet événement, encore une fois, volcanique majeur, a chargé l'atmosphère de soufre, qui explique qu'on retrouve du soufre absolument partout, à PX, sur Viking 1, Viking 2, Pathfinder, partout on retrouve d'énormes quantités de soufre dans le régolithe. Mais il a fallu ensuite que la montée du front géothermique arrive à faire dans deux ou trois endroits seulement des énormes inondations avec ces vallées de débâcle, avec le tilt de terre indienne, qui a fait qu'une partie de ce soufre était cimentée en sulfate, ce qu'on a trouvé dans quelques endroits, mais ce sulfate ne trace pas un moment où l'eau était pérenne. L'eau est arrivée en surface, a cimenté les sulfates, l'eau s'est évaporée immédiatement et a quitté cette planète. Les sulfates ne tracent pas un moment d'eau pérenne, on le pense. Si jamais il y a pu y avoir dans l'histoire de cette planète quelque chose de comparable à ce qui s'est passé sur Terre avec l'arrivée de formations vivantes, il faut les trouver dans des roches argileuses actuellement. Et c'est pour ça qu'on résume ça en disant qu'on a d'abord formé des phyllosilicates en présence d'un champ magnétique parce que la dynamo avait fonctionné. Les sulfates sont formés après, quand il y a eu ce changement climatique global permis par l'activité volcanique corrélée à nouveau à l'arrêt de la dynamo. S'il y a des régions riches en argile actuellement, c'est là qu'on a une petite chance d'avoir l'émergence du vivant qui sera encore fossilisé. On propose d'y aller voir, et c'est là que peut-être on retrouvera, d'abord sur place et par de retour d'échantillons, des bioreliques éventuelles. Merci.
Jean-Pierre Bibrine de l'Institut Astrophysique Spatiale évoquait l'histoire géologique de Mars. Mars, une planète tellurique avec la Terre, Vénus et Mercure, qui s'opposent ainsi aux autres planètes dites géantes. Penchons-nous plus en détail sur ces planètes telluriques et notamment sur ce qui les distingue des autres avec Jane Blichert-Toft, géochimiste à l'ENS de Lyon.
Tout a commencé il y a exactement 4568,5 millions d'années. Voilà votre temps zéro et on en a déjà touché au sujet plus tôt ce matin. Donc voilà, ceci est l'estimation la plus récente. Et jusqu'ici, je pense aussi la plus précise de l'âge du système solaire mesuré sur les inclusions réfractaires d'Allende. Donc, on a aussi entendu parler à plusieurs reprises ce matin. Mais alors, qu'est-ce que c'est qui a commencé à ce temps zéro? Pour vous donner une petite introduction qui va faire une sommaire du sujet d'aujourd'hui, ce qui a commencé, c'est l'effondrement de la nébuleuse, suivi par la création des poussières, qui a abouti dans les corps planétaires, tels que par exemple notre propre planète, qui se sont ensuite différenciés en noyaux, manteaux et croûtes, qui après, ensuite, a été exposé à subi un bombardement acharné par les météorites et les comètes, qui parmi autres choses nous a rapporté par exemple notre hydrosphère. On pense que par la suite, il y a eu un stade largement fondu, donc les fameux océans magmatiques. À un moment donné, les premiers continents ont apparu, la tectonique des plaques s'est déclenchée, il y a eu dégazage du manteau, ce qui a abouti dans notre atmosphère, et tout ça a fini par l'apparition de la vie. Alors ici, on va s'intéresser aux planètes terrestres, comme dit le titre de cet exposé. Donc, Mercure, Vénus, Mars, la Terre et la Lune. Et vous voyez que différentes planètes ont subi différentes évolutions. Et la question, c'est quel est le paramètre responsable de ça? Donc, par la suite, sauf avec l'exception de la diapo suivante, par la suite, on va laisser tomber plus ou moins Mercure et Mars et on va se concentrer plutôt, Mercure et Vénus, et on va se concentrer plutôt sur Mars, la Terre, la Lune et aussi Vesta, qui est une astéroïde qui nous a fourni d'une famille de météorites différenciées très importante, parce que parmi les planètes terrestres, ce sont les seules pour lesquelles nous avons les vrais échantillons géologiques, donc qu'on puisse mesurer. Pour illustrer quelques-unes des différences clés entre les différentes planètes terrestres, voici donc d'abord un paramètre physique, le champ magnétique qui est lié au noyau des planètes, que vous voyez est très différent d'une planète à l'autre. Par rapport à la Terre, le champ de Mercure est tout petit, celle de Vénus est encore plus petit que ça, peut-être 10-5, et la Lune n'a rien du tout. Mais ceci, c'est normal parce qu'on pense que la Lune a été formée à partir de la Terre une fois que la noyau terrestre a été formé. Comme on vient de l'entendre, Mars avait autrefois un champ magnétique, mais elle était probablement faible, et de toute façon, elle a éteint depuis très longtemps. Donc, alors, seulement la Terre a été et est protégée contre l'érosion du vent solaire et les rayons cosmiques, ce qui est important pour la question de l'origine de la vie. Maintenant, voici quelques différences en espace isotope stable entre les différentes planètes, donc l'oxygène. Et là aussi, vous voyez que les corps planétaires différents sont très distincts dans la composition isotopique de l'oxygène. Et pareil ici, en espace isotope radiogénique, les isotopes de hafnium contre les isotopes de néodyme. Et là d'abord, il faut remarquer que sur une échelle planétaire, la Terre est extrêmement homogène par rapport aux autres planètes terrestres, donc voici Mars, la Lune et Vesta, ceux qui sont tous beaucoup plus hétérogènes et extrêmement très extrêmes dans leur composition isotopique. Et donc, l'homogénéité de la Terre par rapport aux autres planètes terrestres reflète bien sûr le fait que la Terre est une planète dynamique jusqu'à aujourd'hui, avec un manteau qui convecte vigoureusement et qui remélange tout. Les différentes pentes des différentes arrays des différentes planètes est liée directement à la minéralogie. Donc nous allons regarder à plus près dans cet exposé l'effet de plagioclase. Alors pourquoi ces différences entre les différentes planètes? Car il faut bien l'admettre une fois, size matters, c'est la taille qui est importante, c'est la taille qui joue. Et on va voir ça. Alors, pour vous expliquer cela, voici un diagramme avec le rayon des différentes planètes en fonction de leurs accélérations gravitaires. Et vous voyez que l'accélération gravitaire sur la Lune est seulement d'à peu près une sixième de celle sur la Terre. Et sur Mars, elle est seulement d'un tiers à peu près. C'est-à-dire que les rayons d'une planète influent sur la gravité et donc sur la dépendance de la pression à la profondeur. Donc la gravité a un effet sur la différenciation des planètes. Et ici, je vais vous montrer le rôle clé du plagioclase, donc je faisais allusion tout à l'heure. Donc à cause de ce que je vous avais montré sur la diapo précédente, la stabilité du plagioclase sur le liquidus des magmas basaltiques varie donc avec la profondeur. Et sur la Terre, elle est d'environ 30 km, sur Mars, environ 100 km, et sur la Lune, d'environ 200 km. C'est-à-dire que si sur la Terre, on refroidisse un magma basaltique, il ne faut pas aller très profond avant que tout de suite c'est la pyroxène qui va cristalliser avant le plagioclase, alors que sur la Lune, il faut s'attendre à ce que ce sera le plagioclase qui domine totalement jusqu'aux profondeurs beaucoup plus grandes. Et voilà, en effet, les fortes anomalies de strontium et de europium dans les roches lunaires montrent la dominance de plagioclase sur la Lune et aussi sur Vesta, un autre corps planétaire tout petit comme la Lune. Mais ça veut dire quoi exactement? Pourquoi c'est important? Comme vous le voyez ici, le plagioclase est beaucoup moins dense que les autres minéraux qui va cristalliser d'un magma basaltique, et surtout, elle est moins dense que le magma basaltique lui-même, qui en plus est plus compressible. Ce qui veut dire que dans un océan magmatique, le plagioclase va flotter. Et donc, l'extraction du plagioclase va créer une lithosphère qui flotte et qui, en plus, est rigide et qui isole l'océan magmatique, ce qui va empêcher son évolution au-delà. Donc, alors, l'évolution de la surface lunaire a donc été fichée seulement en quelques centaines de millions d'années, et en plus, son champ gravitaire était trop faible pour retenir une lithosphère. Et voilà, la Lune s'est arrêtée là. Mais pas la Terre. Planète plus grosse qui ne forme pas une croûte plagioclasique comme on vient de le voir sur la Lune et qui en plus a pu retenir une hydrosphère à portée du système solaire et sur laquelle on a des fortes preuves d'un croûte continentale déjà à 4,4 voire 4,5 milliards d'années. Et ce témoignage vient de l'Australie de l'Ouest, plus précisément des collines de Jack Hills, du craton Akian de Yilgarn, où on trouve les minéraux les plus vieux au monde, des zircons à 4,4 milliards d'années, donc plus vieux que les roches les plus vieilles qu'on connaisse, à 3,8 milliards d'années à l'ouest de Groenland. Les compositions isotopiques de l'hafnium, de ces zircons, sont, comme vous les voyez ici, extrêmement hétérogènes et divergent fortement par rapport à l'état non différencié qui est représenté ici par les valeurs chondritiques, les chondrites donc, qui nous avaient parlé tout à l'heure, et à la fois vers les valeurs positives et les valeurs négatives, ce qui reflète un événement de différenciation majeure du manteau terrestre seulement quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre. Donc voilà, si on a des zircons, on a du granit, et si on a du granit, on a de l'eau, et si on a ces deux-là, ben, on a la tectonique des plaques, parce que la présence du matériel granitique est symptomatique des zones de subduction et donc de l'action de la tectonique des plaques. Et ceci porte directement sur la question de l'origine de la vie, car la géodynamique terrestre moderne transporte des nutriments et accueille l'activité biologique. Ça veut dire que si on avait très tôt dans l'histoire de la Terre déjà les conditions ou un régime semblant à celui d'aujourd'hui, peut-être on avait vraiment déjà très tôt la vie précoce. Et alors, où se trouve Mars dans tout ça? Planète qui, par rapport à sa taille, est intermédiaire entre les deux cas extrêmes qu'on a vu, la Lune et la Terre. Vous avez sans doute tous entendu des âges très jeunes, aux alentours de 180 millions d'années, des météorites qu'on appelle les météorites martiennes, qu'on appelle les chalcotites. Donc, je vous montre un exemple ici pour Sagami, pour les deux chronomètres, samarium néodym et lutécium hafnium. À cause de ces jeunes âges, et évidemment récemment renforcés par toutes les images de l'eau sur Mars qu'on vient de voir, ben, on est très excités parce que cela pourra dire que Mars a été actif, une planète active jusqu'à très récemment. Seulement, le seul problème, c'est que ces jeunes âges, ils présentent un paradoxe. Tout d'abord, ils sont en conflit avec la rareté de surface peu cratérisée sur Mars, donc on en enregistre moins de 5%. Donc, ça donne l'air comme si les chalcotites, ils sont beaucoup plus jeunes que la surface globale sur Mars. Deuxièmement, les âges si jeunes que ça requièrent une convection mantellique active jusqu'à très récemment. Et comme vous l'avez vu tout au début de cet exposé, la convection mantellique sur Mars a été éteinte depuis au moins plusieurs milliards d'années. Et enfin, les âges si jeunes comme ça sont en directe contradiction avec les fortes anomalies en 142 néodymes et 182 tungstènes, donc les radioactivités éteintes, qu'on trouve dans les chalcotites et qui réclament eux aussi, tout comme les radioactivités à longue vie qu'on a vu au début de cet exposé, un manteau statique depuis 4,5 milliards d'années. Donc voilà, on a un problème, mais heureusement, le problème a déjà été résolu parce qu'on a trouvé que l'isochrone plan-plan sur les chalcotites, en fait, à 4 milliards d'années. Et donc, finalement, les chalcotites ne sont pas du tout les météorites jeunes, mais en fait, les météorites anciennes, et tout va bien. Alors que les âges jeunes, on les explique par la remise à zéro des chronomètres dominés par les phosphates, un minéral très fragile, comme par exemple uranium, comme par exemple rubidium strontium, samarium néodyme, lutécium hafnium, par les solutions aqueuses et probablement acides. On s'imagine même un acide sulfurique dilué circulant sur la surface de Mars qui a pu remettre tous ces chronomètres à zéro. Donc ces jeunes âges est en fait l'âge où ces météorites ont été exposés la dernière fois aux solutions aqueuses sur la surface de Mars. Mais quand même, puisqu'on a vu qu'il paraît qu'il y avait quand même de l'eau sur Mars, pourquoi pas de vie sur Mars après tout? Il y avait quand même de l'eau, c'est quand même pas le même cas de la Lune. Bah, c'est encore une fois la taille qui joue. Mars n'a quand même une accélération gravitaire qui n'est que de un tiers de celle de la Terre, et donc à cause de ça, il y avait probablement que peu d'eau. Il y avait de l'eau, mais on ne sait pas vraiment combien d'eau, et il est possible qu'il y avait peu d'eau. Et de toute façon, cette eau qu'il y avait, sa solubilité était inférieure à celle qui est dans la Terre, encore une fois, à cause de la gravité qui était plus faible. Et donc, cela a augmenté la viscosité du manteau et durci la lithosphère, ce qui nous a ramené dans un régime de plaques rigides, ce qu'on appelle un stagnant lid. Donc voilà le cas de Mars. Alors ici, vous voyez le cas de la Terre, où on a les plaques mobiles, les plaques souples, D'accord. Et on a donc la convection mantellique et la tectonique des plaques. Alors que sur Mars, si les plaques étaient beaucoup plus rigides que sur la Terre, bah, on ne pouvait pas les plier. Et si on ne pouvait pas plier les plaques dans leurs extrémités, on ne pouvait pas avoir la tectonique des plaques. Et sans tectonique des plaques, on n'a pas de granit. Et si on fait un saut un peu plus grand, bah, dans ces cas-là, on n'a pas de vie. Et même si on avait de l'eau, on sait que cette eau n'a pas été protégée par un champ magnétique comme elle est sur la Terre. Et peut-être cette eau a été détruite par la photodissociation et n'a pas pu fonctionner de la même façon que l'eau fonctionne sur la Terre. Voilà. Et donc voilà, pas de vie sur Mars, par contre sur Terre, on ne s'est pas limité. Et voilà, je vous laisse avec ceci et je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Jane Bischertoft, géochimiste à l'ENS de Lyon, sur la différenciation des planètes telluriques, et parmi celles-ci se trouve la Terre. Bernard Bourdon développe les connaissances récentes acquises sur la chronologie des radioactivités éteintes, permettant d'identifier une croûte primitive sur Terre. Bernard Bourdon est géochimiste à l'Institut für Isotempéogéologie und Mineralische Rohstoffe en Suisse.
Les questions qu'on va se poser, en fait, sont les suivantes. On va essayer de savoir quand la première croûte terrestre s'est formée. Ensuite, on va essayer de savoir de quelle nature elle était, comment elle s'est formée. Et puis, comme on ne la voit plus de nos jours, on va se demander qu'est-ce qu'elle est devenue. Et ensuite, on va regarder ce qui s'est passé sur Mars. Pour aller voir des témoins les plus anciens de la croûte terrestre, en fait, ce qu'il faut aller voir, c'est les matériaux les plus anciens qu'on peut trouver sur Terre. Et donc, comme Yann l'a montré, il existe des zircons, c'est donc ces petits minéraux qu'on trouve dans des sédiments qui sont trouvés dans l'ouest de l'Australie, et les âges s'échelonnent entre 4 et 4,4 milliards d'années, c'est-à-dire presque aussi vieux que l'âge de la Terre. Et puis on est allé voir aussi au Groenland, où on trouve des roches d'âge 3,8 à 4 milliards d'années. Enfin, au Groenland, c'est seulement 3,8, donc ça donne en fait des roches qui sont en fait 500 à 700 millions d'années plus jeunes que l'âge de la Terre. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va, à partir de roches qui sont nettement plus jeunes que le tout début de l'histoire de la Terre, avoir une idée sur cette histoire la plus précoce. Et l'idée, c'est de regarder, en fait, une radioactivité éteinte, c'est celle du samarium 146, qui a une période de 100 millions d'années. Et en gros, on va avoir une information de type binaire, ça va être relativement simple. À partir du moment où on voit des anomalies néodymes qui sont données par les epsilon 142, ça veut dire qu'il y a une différenciation qui s'est faite avant 4,2 milliards d'années. Si, par contre, on n'a pas d'anomalie, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. La manière dont ça se traduit, c'est en fait des fractionnements entre deux terres rares, le samarium et les néodymes, qui créent des anomalies. Alors on va pouvoir le faire en particulier si on a des différenciations à l'intérieur du manteau silicaté de la Terre, comme par exemple l'extraction d'une croûte. Alors ce problème avait déjà été regardé déjà en 1992 par Harper et Jacobson. Ils avaient publié un article dans Nature. Ça a été un peu contesté parce qu'on a montré que les instruments qu'ils avaient utilisés avaient des résolutions qui sont en fait insuffisante pour vraiment résoudre les anomalies, et même les générations successives, avant l'arrivée de Triton, qui est un instrument qui date du début d'année 2000, on ne pouvait pas vraiment résoudre les anomalies parce qu'elles sont trop faibles. Et donc on a regardé ce problème avec le Triton à Paris, et on a détecté des anomalies vraiment bien résolues sur les roches d'Issoire. Par contre, les anomalies sont de l'ordre de 15 ppm, donc ça représente 15, 10 puissance moins 6, c'est vraiment très très faible. Par contre, si on regarde les basaltes et ainsi que des roches archéennes, on voit qu'en fait, toutes les roches sont de même composition. Donc ça impliquerait qu'à l'heure actuelle, on ne voit plus d'anomalies de néodyme 142 sur Terre. Alors à partir de ces mesures de néodyme, on peut en fait estimer l'âge de fractionnement qui correspond vraisemblablement à l'âge de la croûte primitive. C'est l'âge où on a extrait une croûte du manteau, et cet âge est de 4,35 à 4,50 milliards d'années. Alors évidemment, on s'est dit, si on voit plus d'anomalies actuelles, c'est peut-être parce qu'on regarde à une échelle trop grande. En regardant des basaltes, en fait, on échantillonne une longueur d'onde relativement longue, relativement grande. Donc on a regardé également des inclusions de silicates dans des diamants d'Afrique du Sud. Et là, malheureusement, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas non plus d'anomalies. Et donc c'était un résultat négatif. Une chose qui arrive. La même chose, on a regardé aussi les échantillons des zircons de 4 milliards d'années qui nous ont été fournis par Mark Harrison. Ça, c'était encore une mesure acrobatique parce qu'on avait des quantités infimes de matière. Alors on a en fait quelque chose qui pourrait ressembler à une anomalie, mais en fait elle n'est pas suffisamment résolue. Et ça peut s'expliquer simplement par une contamination ultérieure du néodyme à l'intérieur du zircon. Alors on a en fait aussi regardé les mesures sur les échantillons du Groenland du lutécium hafnium. Et contrairement à ce qu'on s'attendait, en fait on voit que les zircons des mêmes terrains ont en fait pas d'anomalie en hafnium. Et donc, si on regarde un peu les implications de ce que je viens de montrer, le manteau terrestre a subi un fractionnement chimique entre 4,35 et 4,5 milliards d'années. Les roches archéennes indiquent un fractionnement en samarinodyme, mais pas en lutétium-hafnium. Et le manteau terrestre actuel n'a pas d'anomalie en néodyme 142, ce qui implique que vraisemblablement les choses se sont remélangées ultérieurement, comme l'a dit Yann tout à l'heure. Alors, une manière d'expliquer ça, en fait, c'est d'essayer de voir si un modèle d'océan de magma qu'on attend à partir du moment où on a un impact géant qui apporte une énergie gravitationnelle énorme ne peut pas expliquer nos observations. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un modèle relativement simpliste pour essayer d'expliquer les observations de samarium néodyme et lutétium hafnium. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder si on peut fabriquer une croûte primitive qui ressemblerait à nos observations. Alors en fait, ce qu'on observe, ce sont des fractionnements en samarium néodyme. Et on peut, à partir d'un modèle simple que je viens de montrer précédemment, expliquer les observations en disant qu'il y a une cristallisation de l'océan de magma de la base vers le haut et qu'on extrait un liquide qui va former la croûte à la fin. Et l'épaisseur de la croûte qui a été formée à ce moment-là serait de l'ordre de 10 km. Maintenant, si on revient un petit peu à la chronologie, comme on l'a vu dans les exposés précédents, on part de 4,56 ici. L'âge de fin de l'accrétion et de l'impact géant correspond à peu près à 4,53. L'âge qu'on donne avec les isotopes du néodyme sur la cristallisation de l'océan de magma correspond à 4,5, alors avec une barre d'erreur plus importante, et puis l'atmosphère est estimée autour de 7. Donc on en fait une chronologie sur les premiers 100 millions d'années qui est relativement fine actuellement. Maintenant, il y a une espèce de bombe qui est arrivée récemment, en 2005, en fait, des données de Boyer et Carlson, et plus récemment par Andreasson en 2006, qui a montré que les compositions isotopiques des chondrites, aussi bien les chondrites carbonées que les chondrites ordinaires, est différente de la composition de la Terre qui est figurée ici, la composition du manteau terrestre. L'hypothèse qui a été formulée, qui est justifiée, c'est de dire que la Terre totale devrait être de la composition des chondrites ici, et que si la Terre qu'on observe est ici, il doit y avoir un réservoir caché quelque part dans le fond du manteau ou dans le bas de ce diagramme. Et alors j'ai calculé la composition de ce réservoir caché, et ça donnerait en fait un réservoir qui aurait une composition de moins 80 ppm en epsilon néodyme 142. Ça implique, comme on n'en voit aucune trace dans les basaltes actuelles, que pas plus de 5 pour 1000 de ce réservoir ne doit arriver en surface. Or en fait, en discutant avec mes collègues géophysiciens, ils pensent que c'est difficile, même si on maintient une couche à la base du manteau, c'est difficile de ne pas avoir un peu d'entraînement. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a formation d'un panache qui se forme à partir de la base du manteau. C'est difficile de ne pas avoir un peu d'entraînement. Et on va entraîner des conduits dont la taille peut être calculée et qui est de l'ordre de 5 à 10 km. Si on a des hétérogénéités de cette taille-là, en fait, elles vont être facilement détectées en ce qui concerne le néodyme 142. Donc, vraisemblablement, c'est assez difficile de maintenir un réservoir complètement caché à la base du manteau. Alors, une hypothèse qui est arrivée, qui vient peut-être changer un peu la donne également, c'est que les isotopes du barium sont hétérogènes entre la Terre et les chondrites, de la même manière qu'on peut supposer que les isotopes du néodyme sont hétérogènes. Et donc on pourrait supposer qu'en fait ce sont les abondances de composants S et R et N entre les chondrites et la Terre qui pourraient expliquer ces observations. Et il y a des données qui vont être présentées à la LPSC par le groupe de Berkeley, qui montrent qu'en fait, également en calcium, on trouve des hétérogénéités isotopiques qui sont vraisemblablement d'origine nucléosynthétique. Dans ce cas-là, en fait, la composition de la Terre serait distincte légèrement de celle des chondrites et on n'a pas forcément besoin d'un réservoir caché. Alors maintenant, en dernière partie d'exposé, je vais vous parler de la croûte primitive sur Mars. Alors comme l'a montré Yann précédemment, sur Mars, on trouve des choses très différentes de la Terre. On a à la fois des anomalies en néodyme 142 qui sont beaucoup plus prononcées que sur Terre, ainsi que des anomalies en tungstène 182 qui, elles, reflètent vraisemblablement en partie la formation du noyau. Alors l'idée qu'on ait des anomalies couplées, il avait été suggéré par Lee et Hallyday en 96 que ça indiquait la présence d'un océan de magma. À partir du moment où on a un océan de magma, on va avoir le métal qui coule au fond, et une fois qu'on a cristallisation de cet océan de magma, on va fabriquer des fractionnements en samarium néodyme qui donneront ces anomalies. Bon là, de façon évidente, si on compare Mars et la Terre, on a un manteau qui est beaucoup moins mélangé puisqu'on a préservé des hétérogénéités énormes. La difficulté en fait sur Mars, c'est qu'on trouve en fait des compositions en tungstène qui sont distinctes dans les différents réservoirs, et ça a été interprété en disant qu'on a deux âges de formation du noyau martien. Alors on a remesuré en fait sur un grand nombre d'échantillons dans un projet en collaboration avec Guylaine Tité et Alex Hallyday sur des météorites martiennes, et on a trouvé, en fait, on a retrouvé un petit peu la gamme de variations qu'ont trouvé les études précédentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on représente les données de façon simple, en fait, on a effectivement des âges de différenciation entre 4,4 et 4,5 milliards d'années. La grosse différence par rapport à la Terre, si on regarde le nombre de relais qui a été estimé par les géophysiciens sur Mars, on trouve un nombre de relais de 10 puissance 6, alors que sur la Terre, il est, si on prend l'ensemble de la Terre, de l'ordre de 10 puissance 9. Or, en fait, il y a des gens qui ont regardé les implications que ça avait sur les temps de mélange. Si on pense que le temps de mélange est proportionnel à la racine carrée du nombre de relais, alors on doit avoir des temps de mélange sur Mars qui sont 10 à 30 fois plus longs. Sachant que le temps de mélange est de l'ordre de 500 millions d'années sur Terre, ça donne des temps de mélange sur Mars qui sont largement de la durée du système solaire. Donc ça expliquerait, en fait, ces temps de mélange plus longs sur Mars, le fait qu'on ait préservé ces grandes hétérogénéités dans les différents réservoirs. Alors, de la même manière que sur la Terre, on peut imaginer un modèle de cristallisation d'un océan de magma. Donc on a fait ça en utilisant une séquence de cristallisation qui était proposée par Borg et Draper. Dans un premier lieu, on suppose que le noyau va se ségréger en coulant au fond. Dans un deuxième stade, on a cristallisation de la base vers le haut. Et si on fait le calcul, en fait, on peut calculer les compositions en epsilon 182 aussi bien qu'en epsilon 142, en supposant ici qu'on a un noyau qui se ségrège à 5 millions d'années et un océan de magma qui se ségrège à 15 millions d'années. Alors si on calcule ensuite la composition des différents cumulats et des liquides qu'on obtient par ségrégation de cet océan de magma, on arrive, en faisant simplement des courbes de mélange qui sont représentées ici, à expliquer entièrement les données qui ont été obtenues sur toutes les météorites martiennes. Et dans ce cas-là, en fait, on a simplement, au lieu d'avoir un modèle de formation du noyau à deux stades, comme ça a été proposé par Jacobson, Foley et Hallyday récemment, il suffit d'avoir simplement une ségrégation du noyau suivie d'une cristallisation de l'océan de magma. Et en fait, la cristallisation de l'océan de magma contribue à fractionner l'hafnium du tungstène. Donc finalement, on a un modèle beaucoup plus simple que ce qui a été proposé précédemment. Donc mes conclusions, en fait, c'est que les anomalies de néodyme 142 impliquent que la formation du manteau appauvri, et donc en même temps de la croûte, se s'est faite dans les 100 premiers millions de l'année après le début du système solaire. Et cet appauvrissement du manteau, en fait, c'est vraisemblablement lié à l'extraction d'une croûte à suite de la cristallisation d'un océan de magma. Ensuite, la composition isotopique du néodyme des chondrites est distincte de celle mesurée sur Terre. Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter. C'est de dire, un, comme l'ont fait Boyer et Carlson, c'est qu'il y a un réservoir caché constitué de croûtes très primitives à la base du manteau. Le deuxième, c'est de dire qu'en fait, peut-être c'est difficile de maintenir ce réservoir caché, donc on aura du mal à soutenir cette hypothèse-là, et que, en fait, la composition des chondrites est elle-même variable, et que la Terre elle-même peut être légèrement différente, pas beaucoup, des chondrites en ce qui concerne le néodyme, bon, l'oxygène, ça a déjà été dit, et le calcium également. Si on regarde maintenant les choses sur Mars, on a eu un refroidissement plus rapide, une convection beaucoup plus lente, l'hétérogénéité primordiale de Mars a été préservée, et les données de tungstène et néodyme peuvent être expliquées simplement par la cristallisation d'un océan de magma suivant la formation d'un noyau. Merci.
Nous nous sommes intéressés à la croûte terrestre, restons sur notre planète Terre et penchons-nous cette fois sur la formation de notre atmosphère. Le point avec Manuel Moreira, géochimiste à l'Institut physique du Globe de Paris, spécialiste des atmosphères planétaires.
Vous savez tous probablement où se trouvent les gaz rares. Ils sont au nombre de 5, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Donc ce sont des éléments chimiques inertes, ce qui va les rendre assez intéressants car un petit peu insensibles à un phénomène mineur de la Terre, c'est-à-dire l'apparition de la vie. Ils vont être assez insensibles à tous les phénomènes secondaires qui se sont produits dans l'histoire de la Terre. Donc on va utiliser en particulier un outil dans cet outil qui vont être les isotopes dont vous avez entendu parler plusieurs fois aujourd'hui. Les gaz rares, ils ont l'intérêt d'être donc plusieurs, avec une grande variation de masse, de la masse 3 pour l'hélium à la masse 136 pour le plus lourd des isotopes du xénon. Et ils ont l'avantage d'avoir plusieurs types d'isotopes, des isotopes qui sont stables et non radiogéniques, il y a un petit abus de langage, ils sont tous stables en fait. stables et non radiogéniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits dans des réactions nucléaires sur Terre. Certains sont des isotopes qu'on appelle radiogéniques, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de désintégration d'isotopes pairs. Vous en avez entendu plusieurs aujourd'hui, je vais vous les représenter tout de suite. Et donc on a affaire à une famille extrêmement intéressante de 5 membres, avec à la fois dans chacun de ces membres, des isotopes qui sont à la fois stables et non radiogéniques, et des isotopes qui sont radiogéniques. Donc on va avoir des notions sur les processus physiques, et des notions sur les données, des indications temporelles sur ces processus physiques. Alors, l'origine de l'atmosphère, c'est pas un phénomène qui est nouveau dans la communauté. Dès les années 40, Brown avait vu que l'atmosphère de la Terre n'était pas d'origine primaire. Il avait vu ça comment ? En regardant l'abondance des gaz rares ici, dans la photosphère solaire, normalisée aux abondances de l'atmosphère terrestre ou des minéraux. Il avait tout de suite vu que l'atmosphère de la Terre était enrichie en éléments lourds, en gaz lourds, et appauvrie en néons, par exemple. Et il avait tout de suite vu que l'atmosphère de la Terre était d'origine secondaire. Elle n'était pas primordiale au sens des planètes géantes. Il s'est produit des choses dans l'atmosphère, sur Terre, pour produire cette atmosphère. Alors, il avait vu très vite qu'il fallait dégazer le manteau. Alors, donc, l'hypothèse classique, et je vais y revenir beaucoup dans cet exposé, c'est que l'atmosphère telle qu'on la respire actuellement est dégazée du manteau. Un indice très fort pour ce dégazage du manteau, c'est simplement l'isotope de l'hélium, l'hélium-3, qui n'est pas présent dans l'atmosphère de la Terre car il s'échappe vers l'espace. Il est trop léger pour y rester, donc dès qu'il peut, il s'en va. Alors, si on prend un bateau, et je vous le conseille parce que c'est marrant, mais enfin bon, on peut être malade. Sur ce, on prend un bateau et on va sur la dorsale pacifique et qu'on prélève de l'eau au-dessus de cette dorsale pacifique et qu'on l'analyse au laboratoire, on observe de l'hélium-3 dans cette eau. Et la seule solution pour expliquer cet hélium-3, c'est qu'il provient du manteau. Donc on a bien affaire à un dégazage, toujours actuellement, hein, c'est une dorsale océanique d'H0, le manteau se dégaze toujours actuellement. Alors, l'autre hypothèse qu'on a vue plusieurs fois dans les exposés successifs, c'est qu'on ne peut pas négliger un apport, alors ici j'ai mis les comètes, un vernis tardif de comètes, on ne peut pas négliger un apport tardif d'objets de type cométaire ou des chondrites carbonées qui seraient riches en volatiles. Et un exemple célèbre qui permet de proposer ce modèle, tout simplement, c'est ici ce diagramme un petit peu complexe, mais qui est donc ici les 5 gaz rares, les isotopes non radiogéniques des gaz rares, donc en gros c'est la masse hein, atomique, et ici c'est ces gaz rares normalisés à l'un d'entre eux qui est l'argon-36 et renormalisés à ce rapport dans le vent solaire ou la nébuleuse solaire. Donc le solaire par définition a une pente horizontale à 1 et on voit que l'atmosphère qui est les petits ronds ici, donc avec cette structure un petit peu particulière, enrichie en isotopes lourds, appauvrie en isotopes légers, ça on l'avait vu déjà, et les simulations en laboratoire de comètes, donc en fait on fabrique des comètes de laboratoire dans un bain de gaz, et il s'est avéré que ces glaces ici, la ice, ressemblent furieusement à l'atmosphère de la Terre. Donc de là, ils n'ont eu qu'un pas à sauter pour dire que l'atmosphère de la Terre était d'origine cométaire. On retrouve de telles interprétations, évidemment, sur l'origine de l'eau, avec le rapport deutérium sur hydrogène, donc il y a une petite bataille de chiffonniers là-dessus. Donc je vais garder en tête pour l'exposé d'aujourd'hui qu'une origine cométaire est possible, même si on peut faire des remarques essentielles, c'est que ces comètes se sont formées à partir d'une nébuleuse de type solaire, et que la composition isotopique, en particulier du xénon par exemple, je vais en parler tout de suite, devrait ressembler à celle du Soleil. Or, l'atmosphère de la Terre ne ressemble pas du tout, en termes isotopiques, à la composition solaire. Alors, un petit peu de xénologie pour vous détailler tout ça. Le xénon le plus lourd, c'est pour ça qu'on va s'y intéresser aujourd'hui, a 9 isotopes. 4 non radiogéniques, les plus légers, 124, 126, 128, 130. Un radiogénique dont on a déjà parlé dans plusieurs exposés, qui est le xénon 129, qui découle de la radioactivité éteinte de l'iode 129 avec une demi-vie de 17 millions d'années. Et 4 isotopes dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui sont fissiogéniques, dont l'origine est la fission spontanée soit de l'uranium-238, soit d'une autre radioactivité éteinte, le plutonium-244, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, l'atmosphère est représentée dans ce diagramme ici où tous les isotopes sont représentés en abscisse. Ici, c'est le rapport isotopique du xénon, donc l'isotope, par exemple, 126, normalisé au 130, renormalisé, là encore, au solaire, au vent solaire. Donc, le solaire étant horizontal, cette droite en pointillé. L'atmosphère, on voit clairement qu'elle n'est pas du tout solaire. Elle est enrichie en isotopes très lourds et très appauvrie en isotopes légers. Alors, l'origine de ce fractionnement n'est pas encore très compris. On en a eu un indice tout à l'heure, et je vais y revenir, par François Robert. En tout cas, ici, je vous ai tracé simplement une loi de Rayleigh, tout simplement. C'est donc une loi en puissance alpha moins 1, où alpha est la racine du rapport des masses. Et on voit qu'on peut expliquer éventuellement l'atmosphère par une distillation extrêmement importante, c'est-à-dire une perte de gaz laissant une fraction restante de 10-4. Bon, ça c'est un modèle un petit peu extrême qui n'est pas d'actualité, mais c'est pour vous donner une idée qu'il s'est produit des processus peut-être importants, en tout cas au début de l'histoire de la Terre, voire une fois que l'atmosphère s'était formée. Alors, la démarche de notre équipe a toujours été de comparer l'atmosphère avec les échantillons du manteau. Si on veut comprendre comment l'atmosphère s'est dégazée à partir du manteau, il faut déjà savoir ce qu'il y a dans le manteau. Enfin, ce qu'il en reste, en tout cas. Ici, j'ai étudié un échantillon de Galapagos, donc un point chaud, qui échantillonne probablement un manteau très profond, qu'on pense être un manteau relativement intact. Alors, il y a un débat là-dessus, mais on pense que ce manteau est primitif. Et on voit clairement que, bon, il y a un petit peu de bruit. Ici, il y a des écarts qui sont liés à la radioactivité. Donc, ça, c'est normal qu'il y ait des petits écarts. On voit que, globalement, le manteau ressemble à l'atmosphère. Donc, il y a deux solutions, comme dirait la Palice, c'est effectivement soit le manteau et l'atmosphère sont cogénétiques, donc c'est normal qu'ils se ressemblent à la limite, et que l'atmosphère n'a pas subi de processus qui fractionne, soit on a eu un fractionnement et un recyclage massif d'atmosphère qui a complètement contaminé ce manteau qu'on pensait primitif. L'autre, donc la question qui se pose, c'est finalement comment les gaz qu'on a actuellement dans le manteau et qui avaient probablement au début de l'histoire de la Terre ont été acquis par les corps parents et par la Terre. Donc, pour simplifier, il y a deux modèles extrêmes actuellement, qui est une capture d'atmosphère lors de l'accrétion, donc une atmosphère de type solaire qui se dissout dans un océan de magma lié aux impacts, par exemple. Ou alors une hypothèse un peu plus récente qui est en fait que les corps parents, et ça c'est pour relier ça aux exposés de ce matin sur les phénomènes d'irradiation, c'est que les gaz ont été implantés dans les corps parents par un vent solaire probablement énergétique, soit pendant la phase thétaori. Donc l'implantation des ions se fait avec destruction de la couche supérieure et qui permet de stocker une quantité impressionnante de gaz dans les corps parents. Alors, un petit modèle très très simple qui permet de voir si cette hypothèse est crédible. Ici, on va étudier le deuxième gaz rare, le néon, le 20, l'isotope 20 et l'isotope 22 du néon. La mission Genesis, qui vient de revenir sur Terre, a montré que, en fait, les ions s'implantaient en fonction de leur énergie cinétique. C'est-à-dire que le 22, qui a une masse plus lourde, s'implante plus profondément que le 20, qui est donc plus léger. Ce phénomène d'implantation se fait par une destruction, une espèce d'érosion de la surface, et on voit clairement que si on a implantation et érosion, on va arriver très rapidement à une espèce d'état stationnaire par rapport à la valeur ici du vent solaire mesuré sur Genesis, que les grains, on implante des gaz dans les grains et qu'on détruit en même temps la surface de ces grains, on va arriver à un état stationnaire, ici j'ai mis 100 000 ans, ça dépend un petit peu de la vitesse d'érosion, on arrive à 12,6. C'est une valeur clé qu'il va falloir retenir. C'est une valeur qu'on mesure également dans certaines chondrites, ici des chondrites ordinaires que nous avons mesurées grâce à un laser, donc des grains de 0,1 mg. Et on voit que, alors la ligne verte c'est un FIT qui passe par les points et qui passe par un pôle cosmogénique, qui sont des réactions nucléaires secondaires lors du trajet de la météorite vers la Terre. On voit que, globalement, les météorites ont une valeur qu'on appelle pré-cosmogénique, qui serait de l'ordre de 12,6, 12,7. Donc, assez proche de cette valeur théorique, ce qui peut être assez normal finalement. Par contre, si on regarde, et là encore on fait toujours l'aller-retour entre les échantillons du manteau et les météorites, et éventuellement les valeurs mesurées par les sondes ou les satellites. Ici, vous avez un diagramme à trois isotopes, j'en rajoute à chaque fois, du néon, 20, 21, 22. L'axe des X n'est pas très important pour la discussion d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'axe des ordonnées, 20, 22. Ici, vous avez tous les échantillons de basalte terrestre mesurés, donc des basaltes de dorsale en noir, des basaltes de points chauds en rouge. Et vous voyez assez facilement, ici, la valeur du vent solaire, du soleil, vous voyez facilement qu'il existe très très peu de données. En tout cas, j'ai pas représenté les erreurs pour pas charger le graphique, mais vous voyez qu'il existe très peu de données qui sont supérieures à cette valeur des grains irradiés. Hein, donc de 12,6 que j'ai représenté par ce petit carré orange. On peut rajouter des isotopes, hein, on en a toujours sous le coude, on peut en rajouter, ici je peux rajouter le 38-36, et on voit que les grains irradiés, donc par le modèle d'implantation-érosion, expliquent très bien les données terrestres. Donc la conclusion qui en découle, c'est que on peut très bien apporter les gaz rares, en tout cas le néon et l'argon, lors des processus d'irradiation, lors de la phase d'accrétion. L'inconvénient, c'est que ça ne va pas expliquer le xénon. Hein, le xénon, donc on avait vu que le phénomène d'implantation est un phénomène qui dépend du rapport de masse, puisque c'est un rapport d'énergie cinétique, M1 sur M2. Je vous rappelle, l'atmosphère est ici, donc le manteau est ici, hein, en bleu, la distillation toujours en vert, et on voit que la courbe rouge qui devrait être la valeur théorique de l'implantation d'ions du vent solaire dans des corps parents ne peut pas du tout expliquer la composition isotopique du xénon. Donc là, ça marche pas du tout, on doit faire appel à d'autres mécanismes. François Robert en a cité un tout à l'heure. J'ai pas les données, donc j'ai pas pu les représenter, mais je crois qu'elles sont assez cohérentes. C'est phénomène de piégeage du xénon dans de la matière organique avec fractionnement isotopique. Donc ça reste à développer. Donc pour exclure assez rapidement l'effet de la solubilisation, hein, d'une atmosphère primordiale de type solaire dans le manteau, en fait on peut voir clairement que ici, c'est la courbe théorique de solubilisation. Les gaz lourds sont très peu solubles dans les magmas. Les gaz légers sont plus solubles dans les magmas. Donc, on devrait trouver dans un magma un excès d'éléments légers et un excès et un déficit d'isotopes lourds. Alors, c'est carrément l'inverse qu'on trouve. C'est que l'atmosphère, on l'a vu tout à l'heure, et le manteau montrent des excès en isotopes et en éléments lourds par rapport au solaire. Donc, à ce stade-là, je vais exclure dans la suite de la discussion ce phénomène de capture de volatiles dans le manteau terrestre. Alors, donc là, c'était des généralités pour comprendre un petit peu d'où venaient les volatiles. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de dater un petit peu l'âge de l'atmosphère. On va supposer que l'atmosphère s'est dégazée à partir du manteau. On va prendre un modèle simple pour illustrer le propos. Évidemment, on peut toujours compliquer hein, l'évolution qu'on va utiliser là. Je vais essayer de vous donner deux exemples très simples pour qu'on ait un ordre d'idées en tête sur l'âge de cette atmosphère. Donc, je vais supposer ici un dégagage qu'on appelle cinétique, très simple. L'évolution est proportionnelle à la quantité qu'il y a dans le manteau. Je vais négliger une perte vers l'espace, qui évidemment est un problème clé. On l'a vu dans plusieurs exposés. Vous imaginez bien que si vous formez la Lune par un impact géant, qu'est-ce qui va rester de l'atmosphère qui existait avant cet impact? Ça, c'est une question qui est encore ouverte. Pour parler un petit peu, je vais rajouter quelques comètes, histoire de pas me fâcher avec des gens, mais disons que c'est pas très important dans la suite de l'énoncé. Puis je parlerai un petit peu d'une hypothèse qui est nouvelle, qui a été proposée par des Anglais sur la subduction massive d'atmosphère. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement, au premier ordre, regarder un rapport isotopique. On va regarder celui du xénon, je vais en parler tout de suite. En fonction du temps, on a une situation actuelle qui est mesurée dans les basaltes, c'est le manteau. On a éventuellement la composition de l'atmosphère, donc on a deux paramètres actuels. On a une vague idée, je vous l'ai montré, de ce qu'il y avait au début. Et l'idée, c'est quand même d'aller de là à là, donc du début à la fin. Et ça, pour ça, on pourrait compliquer à volonté le modèle. On va faire un modèle tout simple au début. Alors, les isotopes radioactifs, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour les personnes qui ne sont pas familières, je fais un petit rappel. Claude Allègre l'a dit ce matin, un rapport isotopique radiogénique sur stable. Donc 129 xénons sur 130 xénons, par exemple, c'est un rapport initial, plus un rapport chimique entre le père et le fils. Donc ici, ça va être l'iode 129 et le xénon 130, le stable du fils, et fois du temps. Donc en fait, c'est une exponentielle, mais j'ai simplifié l'équation. Et qu'est-ce qui se passe? Le père, il diminue de façon exponentielle, toujours, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Le stable du fils, il va être constant ou il va être modifié dans un réservoir. Donc si vous formez l'atmosphère, dans l'atmosphère, va être en verte ici, va s'enrichir en xénon 130, par exemple. Et ça se traduit comment en termes de rapport isotopique? Ici, vous avez la Terre totale, chondritique, si vous voulez, ou pseudo-chondritique, enfin, ça dépend à quel système on s'intéresse. Ici, vous allez avoir le manteau en bleu, puisque lui va être appauvri en isotopes légers. Par contre, il va garder son père, donc le père, lui, va continuer de se désintégrer, et l'atmosphère va être en vert. Donc ça, c'est le principe de base de la géochimie isotopique ou de la cosmochimie, c'est-à-dire d'étudier quand a lieu ce fractionnement, ce qu'on appelle ce fractionnement, ce point bleu ici. Quel est le temps à partir duquel on a une séparation des différents réservoirs qui nous intéressent? Alors, on va utiliser toute une panoplie d'éléments chimiques et d'isotopes, donc en gros les 5 gaz rares et les isotopes de ces gaz rares. Ici, on va utiliser des échantillons terrestres pour corriger de la contamination atmosphérique. Donc on va obtenir des rapports isotopiques qu'on mesure dans des basaltes. Ça va nous donner les valeurs du manteau. On a les valeurs de l'atmosphère. Et donc, avec tout ça, on arrive à faire des modèles au premier ordre. Ici, l'évolution du manteau en bleu. Ici, l'évolution de l'atmosphère sans apport de comète en jaune. Et donc, on s'adapte pour que les courbes arrivent sur les valeurs actuelles du manteau. Ici, je l'ai dit tout à l'heure pour faire plaisir, j'ai rajouté des comètes. On voit que ça n'a pas un effet grandiose, mais ça... Ici, j'ai pris un cas en plus extrême qui est de dire que tous les océans ont été apportés par des comètes. Ce qui n'est pas vrai, probablement, puisque sur la base du rapport deutérium-hydrogène, et j'ai donné une courbe d'évolution d'apport tardif. Bon, sur ce qui m'intéresse ici, c'est de déterminer les constantes de l'équation de cinétique. Donc ici, bon, on fait un modèle très simple. Et comment on détermine un âge tout simple de l'atmosphère? On peut supposer qu'à 99% de dégazage, donc ici c'est la quantité qui reste dans le manteau en fonction du temps, en logarithme, donc j'ai une loi linéaire, et on voit qu'on a dégazé dans un modèle tout simple, en 100 millions d'années, 120 millions d'années, 130 millions d'années, on a dégazé quasiment, on a formé toute l'atmosphère. Alors on s'est rendu compte très vite que ce type de modèle n'était pas correct. En particulier, on voit bien, je l'ai montré tout à l'heure, que l'hélium-3 se dégazait toujours. On a affaire aussi à de l'argon-40 radiogénique dans l'atmosphère. Donc on sait que celui-là, il est formé par une radioactivité de plus longue période. Et donc on est obligé de faire appel à des modèles à deux stades. Ce qu'on appelle à deux stades, c'est-à-dire un terme de dégazage rapide et un terme de dégazage moins rapide. Et on va essayer d'adapter tous ces paramètres. C'est les mêmes équations, sauf qu'on rajoute... un stade où on serait, on va le voir, dans un dégazage moins rapide. Et on se rend compte très vite que les modèles arrivent tous à peu de choses près à deux étapes comme ça, c'est-à-dire en fonction du temps, un dégazage extrêmement rapide qui est probablement lié à l'accrétion, hein, des impacts géants, des impacts du dégazage, un océan de magma, tout ce monde-là va favoriser un dégazage extrêmement puissant et très rapide, en 100 millions d'années, très, très vite. Et puis après, on pense que la tectonique des plaques prend le relais une fois que les météorites sont un petit peu épuisées ou qu'il n'y en a plus assez pour avoir un océan de magma et un dégazage puissant. On va avoir affaire à la tectonique des plaques qui prend le relais avec un dégazage beaucoup plus calme et qui dure jusqu'à aujourd'hui, actuellement. Donc ça, c'est les modèles au premier ordre simple, puisqu'on ne fait pas d'échappement hydrodynamique, on ne fait pas de perte vers l'espace, on se simplifie un petit peu la vie, mais ça donne des ordres de grandeur et essayer de relier ça à des phénomènes géologiques majeurs. Je me suis donné la peine de faire un petit cartoon, mais je n'ai pas le temps de vous le présenter, c'est dommage parce que j'y ai passé du temps. Il n'est pas très beau, mais je ne suis pas très fort. Qui reprend un petit peu ce qu'a fait Bernard de façon un peu plus élégante, je trouvais. Et donc, je passe directement aux conclusions qui sont que on a besoin, pour comprendre l'histoire de l'atmosphère terrestre, d'étudier à la fois les échantillons géologiques les basaltes, la croûte, et de comprendre l'évolution du manteau terrestre, on a besoin, j'ai dû zapper un petit peu pour des questions de timing, de comprendre la subduction. C'est un problème qui reste ouvert. On a besoin de bien caractériser l'effet de la subduction sur le bilan des volatiles terrestres. Et évidemment, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé pendant l'accrétion, de relier ça à la phase d'étaurie, au phénomène d'irradiation, au phénomène d'impact géant. Et voilà. Et donc, bon, ça reste ouvert. On a des années de travail encore devant nous. Et je vous remercie de votre écoute.
Nous étions sur Terre avec Manuel Moreira de l'Institut de physique du Globe de Paris. Quittons notre système solaire pour découvrir un nouveau champ d'investigation pour la planétologie depuis 1996, les planètes extrasolaires. Alain Lecavillier, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous présente les propriétés originales de ces nouvelles voisines.
J'ai donc choisi de vous présenter juste quelques éléments de ces planètes extrasolaires en me focalisant sur ceux qui me semblent avoir des relations avec la planétologie. Et même en faisant ce choix, je crois qu'il serait difficile de le faire sans vous garder jusqu'à la fin de la soirée. Et donc j'ai choisi de vous présenter quelques éléments que je connais le mieux, ceux que nous faisons à l'Institut d'astrophysique de Paris, dans l'équipe d'Alfred Vidal-Majar. Et je vous présenterai aussi évidemment quelques résultats obtenus par mes collègues de Nice, Grenoble, etc. Et, mais vous allez voir qu'on fait énormément de choses et qu'on a des relations avec la planétologie. Les planètes extrasolaires constituent effectivement un nouveau champ pour la planétologie. Un nouveau champ d'investigation, et ce champ, j'ai choisi de vous le représenter dans ce diagramme, où on représente de façon assez classique toutes les planètes extrasolaires découvertes jusqu'à aujourd'hui. On en compte à peu près 212, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire beaucoup plus que les 8 planètes du système solaire. Et donc, chaque point ici est une planète extrasolaire que l'on représente en fonction du demi-grand axe de son orbite, la distance à son étoile, et de la masse de la planète. Si sur ce diagramme, je présente les planètes du système solaire, Neptune et Uranus seraient au-delà de l'épure, mais vous aurez les planètes terrestres ici, et les planètes géantes gazeuses ici, et vous voyez qu'il y a une sorte de vide entre les planètes terrestres et les planètes géantes gazeuses, et qui n'est pas complètement vide dans ce diagramme. Vous voyez plutôt un vide, je dirais, une sorte de manque de planètes en bas, et ce manque de planètes en bas n'est simplement qu'un biais observationnel. Nous sommes aujourd'hui capables de détecter les planètes extrasolaires essentiellement par la méthode des vitesses radiales, et cette méthode a des biais qui font qu'il est plus facile de détecter des planètes massives et des planètes proches de leur étoile. C'est donc ici ce diagramme qui est peuplé essentiellement par la méthode des vitesses radiales, qui consiste à détecter les planètes en analysant le mouvement des étoiles hautes de ces planètes. Alors, on va regarder plus en détail ce diagramme. Et la première chose qui vous a sans doute marqué, c'est que si on comparait par rapport aux planètes du système solaire, vous avez ici des planètes géantes, donc probablement gazeuses, massives, jusqu'à des distances extrêmement proches du Soleil. Je vous rappelle que Mercure était Mercure était quelque part par là. Et un point que j'aurai pas le temps de détailler plus aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces planètes sont sur des orbites qui sont excentriques. C'est un problème qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas du tout résolu. Pourquoi de très nombreuses planètes extrasolaires sont des orbites excentriques, alors qu'on s'attend à des orbites plutôt circulaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alessandro Morbidelli. Alors, il y a un point qui est un élément fort de ces découvertes des planètes extrasolaires, c'est la découverte des Jupiters chauds, c'est-à-dire ces planètes géantes gazeuses, très très proches de leur étoile. On a fait la classe des Jupiters chauds. Je vais m'axer un peu plus sur cette classe tout de suite. Parce que dans cette classe, il y a ce qu'on appelle les planètes à transit, celles qui passent devant leur étoile. On en connaît 14 aujourd'hui. Et parmi ces 14, il y en a 3 qui transitent devant leur étoile, qui est une étoile brillante. Donc on peut faire des analyses extrêmement détaillées. On peut même voir des éléments de la composition de l'atmosphère de ces planètes, comme vous allez le voir. Il y a aussi une nouvelle classe qui apparaît depuis 2-3 ans maintenant. Ce sont les Neptunes chauds, des planètes d'une 15 à 20 fois la masse de la Terre, extrêmement proches de leur étoile. Classe que l'on ne connaît pas du tout dans le système solaire. Il y a les planètes aussi autour d'un pulsar, je ne pourrais pas le détailler plus aujourd'hui, mais vous imaginez bien que des planètes autour d'un pulsar, c'est tout un champ d'investigation pour les planétologues et de recherche particulièrement intéressant. Et puis, très récemment, il y a eu découverte de planètes peu massif par micro-lentille. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que la taille compte, mais là, pour les chercheurs de planètes, c'est la bataille de savoir celui qui aura la plus petite. Et bien, la plus petite est actuellement obtenue par Jean-Philippe Beaulieu et son équipe Planète, qui a découvert une planète qui est ici, je vais vous détailler, qui a 5 fois la masse de la Terre et qui se situe à 2,5 unités astronomiques de son étoile. Donc voilà le champ d'investigation, de ce nouveau champ d'investigation pour la planétologie. Je vais m'axer plus intensément sur les planètes à transit, puisqu'on peut en faire des études extrêmement détaillées, individuelles, comme vous allez le voir. Vous allez voir que ces recherches ont conduit à des découvertes qui permettent de mieux comprendre peut-être l'origine et la nature de ces Neptune chauds. Et à la fin, je terminerai par quelques éléments de la planétologie de ces planètes peu massives, froides, loin de leur étoile. Alors, une planète qui transite, c'est tout simplement une planète qui passe devant son étoile. Vous avez cette petite animation qui vous montre exactement ce que l'on pense être la situation d'une de ces planètes. Elle passe ici et vous voyez, une planète, ça couvre grosso modo 1%, 1 à 2% de la taille de l'étoile. Quand la planète passe devant, l'étoile devient moins brillante de 1 à 2%. Ça permet parfois d'en détecter certaines. Mais surtout, une partie de la lumière de cette étoile traverse les couches atmosphériques de la planète. Et on peut mesurer ainsi la taille de la planète en fonction de la longueur d'onde, ce qui revient à dire finalement qu'on est capable de détecter les composés atmosphériques par la spectroscopie d'absorption. Alors la première planète pour laquelle on a vu un transit, c'est la planète qui porte le doux nom de HD 209-458b. Je vous rassure, je ne vous interrogerai pas à la sortie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce nom un peu barbare, c'est la raison pour laquelle Alfred Vidal-Majar a proposé qu'on lui donne un autre nom. Il a proposé Osiris, et vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure. Mais tout d'abord, je voudrais juste vous faire remarquer qu'on a, grâce aux vitesses radiales, la masse de la planète. On a ici le transit, vous voyez, la baisse de lumière de 1,6% pendant le passage de la planète devant son étoile, qui nous donne le rayon, vous avez la masse, le rayon, vous avez la densité, et vous avez ici la preuve qu'il s'agit bien d'une planète géante gazeuse. Donc rien que le transit vous donne des éléments sur la nature même de cette planète. Mais nous ne nous arrêtons pas là, car dès l'annonce de cette découverte, il y a eu des observations faites avec le télescope spatial Hubble, de transit, cette fois-ci en spectroscopie, et là ce qu'ont découvert David Charbonneau et son équipe, c'est un excès d'absorption dans le sodium. L'arrêt du sodium a un excès extrêmement faible qui vous trace donc la présence de sodium dans cette atmosphère. Et il y en a un peu moins que prédit par les modèles théoriques. Il faut donc trouver une explication. Alors l'explication est peut-être des nuages ou l'ionisation, ou peut-être plus probablement un modèle proposé par Nicolas Hérault et ses collègues à l'Observatoire de Meudon sur la condensation du sodium côté nuit. Et à l'Institut d'astrophysique de Paris, dès l'annonce de cette découverte, nous avons proposé d'obtenir du temps pour observer cette planète dans l'arrêt de l'hydrogène dans l'ultraviolet, parce que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant, c'est le plus léger. Donc c'est évidemment celui qui nous semble le plus facile à détecter. On a fait donc cette observation où on voit ici en vert l'émission stellaire avant le transit et en rouge l'émission stellaire pendant le transit. Donc on voit l'occultation est ici. Finalement, c'est la différence entre le trait vert et le trait rouge qui vous montre que la planète, le nuage d'hydrogène qui entoure la planète, cache un peu cette étoile. Et la plus grosse surprise, je dois vous dire, c'est de voir que si on représente cette occultation en fonction du temps, là c'est le début de l'occultation, là le fin de l'occultation, donc on a une mesure de l'amplitude de la taille de la planète dans l'hydrogène, et on a 15%. Et 15%, c'est énorme, beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et cet élément va nous permettre de conclure à l'évaporation de la planète. Je vais vous démontrer très rapidement, en fait, comment, par deux contraintes différentes, on arrive à mesurer, à montrer que cette planète s'évapore. Si vous avez 15%, voilà à quoi ça correspond. Si vous avez la planète toute seule, elle cache 1,6% de l'étoile. Si vous remplissez le lobe de roche de cette planète, ça la cache 10% de la surface de l'étoile. Et là, vous avez 15%, c'est beaucoup plus que le lobe de roche, c'est au-delà de la sphère d'influence de la planète, et donc l'hydrogène ne peut pas être lié physiquement à cette planète. On a aussi une mesure de la vitesse du gaz, qui est entre moins 130 et plus 130 km par seconde, qui montre que la vitesse est supérieure à la vitesse d'échappement. Donc, à nouveau, l'hydrogène s'échappe, la planète s'évapore. Alors, on a essayé de comprendre 15%, ça faisait quoi? Combien il fallait d'échappement pour faire ces 15% d'absorption? On a fait des simulations numériques et on a conclu que ces 15% pouvaient être expliqués par un taux de production de 10 puissance 10 grammes par seconde. Mais je crois que le plus intéressant est venu par la suite, parce qu'on a réobservé et on a cherché cette fois-ci le carbone et l'oxygène, et on a vu que à nouveau l'oxygène était caché la planète par 13%, le carbone par 8%. À nouveau, c'est des très très hautes échelles d'atmosphère, et le carbone et l'oxygène étant beaucoup plus lourds, ils ne devraient pas se situer à ces hauteurs. En fait, la seule explication, c'est que finalement, l'oxygène et le carbone sont emportés par le flot d'hydrogène, et qu'on a affaire ici non pas à un échappement de Jeans, mais à un échappement hydrodynamique, et cet échappement qui est probablement explique l'atmosphère primitive de la Terre. Et on a peut-être ici affaire à la première observation en temps réel d'un échappement hydrodynamique d'une atmosphère. Alors depuis, bien sûr, énormément de gens se sont attelés à la modélisation de cet échappement. Vous avez ici un modèle où on tient compte des effets de marée, parce qu'on est très très proche de l'étoile, et évidemment c'est très important, où on voit l'étoile se situer à gauche et que le taux d'échappement n'est pas isotrope. Et de nombreux modèles que je cite ici tentent à comprendre pourquoi on a des échappements de cet ordre. Mais ces découvertes de l'évaporation des Jupiter chauds, je crois, nous apportent des éléments pour mieux comprendre peut-être la nature de certaines des Neptunes chauds. Vous avez ici un diagramme qui vous représente le nombre de planètes en fonction de la masse. Et vous voyez que bon, les planètes massives sont très nombreuses, elles sont plus faciles à détecter. Mais on a donc une décroissance, on a moins de planètes peu massives. Mais vous voyez ici qu'il y a les Neptunes chauds et qu'il y a un trou. Il y a un manque de planètes de masse intermédiaire. Il n'y a pas grand-chose entre 15-20 masses terrestres et 100 masses terrestres. Et ce manque est une énigme. Et il me semble qu'on peut l'expliquer par la présence, parmi ces Neptunes chauds, de certains résidus d'évaporation. Parce que si une planète géante gazeuse s'évapore, il reste que le cœur central rocheux qui doit faire à peu près la masse d'un Neptune. Et pour vous montrer ceci, j'ai conçu un diagramme que j'appelle diagramme d'énergie pour représenter simplement la problématique, où on représente finalement sur l'axe des X l'énergie reçue par la planète et sur l'axe des Y l'énergie potentielle du gaz de cette planète géante gazeuse. Et finalement, vous avez toutes les planètes représentées sur ce diagramme. L'axe des Y, l'énergie potentielle, c'est plus ou moins la masse, en quelque sorte, c'est relié, corrélé à la masse. Vous avez les planètes plus massives vers le haut, et vous avez les planètes les plus loin. L'axe des X a été orienté de sorte que les planètes les plus loin sont sur la droite. Alors, vous avez aussi ici une limite pour liée à la présence des biais observationnels, les vitesses radiales. Vous avez donc un manque de planètes ici qui est simplement lié à l'incapacité des moyens techniques actuels à détecter la présence de planètes dans ce diagramme. En revanche, ici, s'il y avait des planètes, elles seraient détectées. Il se trouve que si on trace la zone, finalement très simple, dans laquelle l'énergie reçue serait supérieure à l'énergie potentielle de la planète en 5 milliards d'années, vous avez donc cette zone de diagramme qui est interdite par l'évaporation, et vous pouvez donc comprendre pourquoi il y a un manque de planète ici, si vous supposez que s'il y avait une planète ici, elle aurait très rapidement évaporé son gaz pour migrer de l'autre côté du diagramme. Alors on peut représenter les Neptunes chauds dans ce diagramme. J'ai représenté ici à nouveau le trait, la limite à 5 milliards d'années, et pour les Neptunes chauds, on n'a pas la taille, parce qu'on n'a aucun Neptune chaud qui transite, pour lequel on a une mesure de la taille. Donc on doit faire des hypothèses sur la densité de ces planètes, que j'ai représentées par des petits symboles différents. Alors pour certains de ces Neptunes chauds, quelle que soit la densité, même les densités les plus faibles, font que ces Neptunes chauds peuvent survivre au rayonnement de leur étoile sans aucun problème pendant plus de 5 milliards d'années. Donc ces Neptunes chauds ne peuvent pas être considérés, ne sont probablement pas des résidus d'évaporation, sauf si le flux de l'étoile très jeune, comme on l'a vu ce matin, était beaucoup plus important, ce qui est aussi une possibilité. Mais il y a d'autres planètes extrêmement intéressantes. Il y a ces quatre planètes ici, et vous voyez que pour les densités les plus faibles, on est de l'autre côté du diagramme, et donc on a une limite assez forte sur la densité des planètes, vous voyez ici, qui est nettement supérieure à celle qu'on avait pour HD 209-458b, ou celle qui est imaginée pour la structure des Neptunes chauds. Donc il est possible que ces planètes soient des résidus d'évaporation des planètes géantes. Et puis il y en a une tout à fait particulière que je trouve extrêmement intéressante, c'est Gliese 876d, qui est une toute petite planète. Et vous voyez que si on la représente dans ce diagramme, on voit que la densité doit en tout cas être supérieure à 3 grammes par centimètre cube, ce qui est vraiment une planète extrêmement intéressante et en fait un candidat tout à fait réaliste pour un résidu d'évaporation extrêmement proche de son étoile. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne détecte pas les planètes uniquement par les méthodes de vitesse radiale, on les détecte aussi grâce aux lentilles gravitationnelles, et cela permet de détecter cette fois-ci des petites planètes loin, finalement d'avoir des biais observationnels différents. Alors, la méthode finalement consiste à observer une étoile lointaine, et si une étoile passe devant, par la déflexion gravitationnelle, on a une amplification de l'étoile source, l'étoile du fond de ciel, et s'il y a une petite planète qui orbite autour de cette étoile qui déflecte la lumière, on peut espérer avoir à nouveau une amplification au moment très très rapide. Vous voyez, l'amplification lente et très rapide, pouf, c'est la planète qui vous trace finalement que le champ de gravité de la planète est plus petit, mais peut-être aussi tracé grâce à cette amplification gravitationnelle. Vous avez ici une image où vous allez voir une détection d'une planète, vous avez l'étoile qui va passer derrière une étoile de champ, donc elle va l'amplifier, ça monte, et tout d'un coup vous allez voir deux spikes, paf, paf, et ben ça, vous venez de voir une planète extrasolaire. En réalité, vous venez de voir une étoile de fond de ciel, devant laquelle une planète extrasolaire vient de passer. Donc vous savez qu'il existe une planète extrasolaire, vous pouvez en mesurer la masse, ou du moins le rapport de masse-étoile, mais vous n'avez ni jamais vu ni l'étoile autour de laquelle la planète tourne, ni la planète. Donc vous connaissez l'existence, vous avez des mesures de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Alors, ces observations ont donné des résultats tout à fait extraordinaires, puisque je vais citer celui de Hoggle 2005 BLG 390 grand L petit b, parce qu'évidemment ces gens observent des centaines de milliers d'étoiles et pour en espérer en détecter un alignement fortuit. Voilà donc la courbe de photométrie, vous avez l'étoile source, enfin l'étoile qui a déflecté la lumière et puis la petite planète qui est ici, pouf. Donc vous avez des éléments sur la planète et son étoile. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur cette planète? D'abord, elle est de petite masse, environ 5 masses terrestres. En réalité, les barres d'erreur sont assez larges, hein, comme vous le voyez. Mais elle est très loin de son étoile, à 2,5 unités astronomiques, et autour d'une toute petite étoile, l'étoile M, qui fait très peu lumineuse, 1% de la lumière de l'étoile, ce qui fait que la planète reçoit autant d'énergie que Pluton en reçoit du Soleil. Et la température de surface doit être environ 40 Kelvin. Et surtout, l'âge est assez important, puisque c'est une étoile du bulbe, donc c'est une étoile dont on estime l'âge entre 5 à 10 milliards d'années. Alors, on s'est posé la question, quelle est la nature de la surface de cette planète, et peut-il exister de l'eau liquide? Ce qui peut vous sembler un peu incongru comme question pour une planète qui reçoit aussi peu d'énergie, mais nous avons eu, pour faire ces travaux, l'aide de par exemple, Olivier Grasset, qui travaille à Nantes sur les satellites de Jupiter, et qui imagine la présence d'eau liquide sous la banquise d'Europe, un satellite de Jupiter. Donc on peut tout à fait tenter de répondre à cette question, qui n'est pas si incongrue que cela, et vous allez le voir. On a donc tracé les diagrammes de phase de l'eau. Vous avez la phase liquide ici, la phase solide ici avec les phases de différentes phases de la glace, en fonction de la profondeur et là la température. Et évidemment, on a considéré qu'il y avait un chauffage radiogénique, puisque vous avez on peut imaginer un noyau, et donc on a fait des hypothèses tout à fait réalistes, enfin tout au moins autant qu'on puisse le faire, sur le chauffage radiogénique de cette planète. Et on a donc calculer la température en fonction de la profondeur, et vous voyez que pour une certaine composition d'eau de 25%, on touche l'eau liquide et on peut avoir de l'eau liquide sous la glace. Alors on a considéré qu'il y avait deux classes possibles. La première classe, c'est une planète de type terrestre, on va dire, essentiellement du fer et du silicate, avec une mince couche, une mince proportion d'eau. Et dans ce cas-là, on peut avoir un océan sous une couche de glace ou une couche de glace au-dessus de la couche de silicate. Ou on a considéré un autre cas, une planète qui contient énormément d'eau, ce qui, de mon point de vue, est le plus réaliste dans le sens où on imagine une planète qui est à 2,5 unités astronomiques de son étoile. Et pour lequel les planétésimaux qui l'ont formé pouvaient contenir énormément d'eau. On voit bien que les satellites des planètes géantes contiennent énormément d'eau. Donc, on a considéré une planète qui pouvait avoir 25 ou 50% d'eau. Et dans ce cas-là, vous avez une couche de glace, un océan sous la couche de glace et à nouveau une couche de glace haute pression. Alors, le résultat est le suivant. Dans le cas d'une planète terrestre avec peu d'eau, très rapidement, on a énormément d'énergie parce que là, on a cette fois-ci un énorme manteau, on a beaucoup d'éléments radiogéniques pour chauffer la planète, mais il y a peu d'isolants. La glace, finalement, laisse échapper toute la chaleur très rapidement et dans tous les cas, au bout de très très peu de temps, la glace devient glacée. On ne peut pas maintenir, on n'a pas assez d'isolants en quelque sorte pour maintenir la glace en eau liquide. Donc, s'il y a peu d'eau, une mince couche de glace à la surface. On a considéré donc la planète qui connaît plus de glace. Alors cette fois-ci, là, il y a une lutte entre deux phénomènes. Vous avez un meilleur isolant, en quelque sorte, vous avez le matériel pour former l'eau liquide, mais en revanche, vous avez moins de sources d'énergie. Donc finalement, il y a une compétition, et la compétition semble se gagner pour les planètes qui ont alentour de 25% d'eau, mais à 9 milliards d'années, dans tous les cas considérés, on a trouvé qu'il devait y avoir une couche de glace basse pression, en dessous une couche de glace haute pression, et le noyau au centre, sans glace. En revanche, dans le cas où d'une planète qui a jusqu'à quelques milliards d'années, typiquement 4, 5, 6 milliards d'années, l'eau liquide pouvait subsister. Et comme on sait que les étoiles de type M sont les plus nombreuses dans la galaxie, que ces planètes ne sont probablement pas extraordinaires, et que l'eau liquide peut subsister pendant plusieurs milliards d'années autour de ces planètes, cela nous permet d'imaginer qu'il y a dans la galaxie des dizaines de milliards de planètes qui ont de l'eau liquide sous une couche de glace. Alors, comme je vous l'ai dit au début de cet exposé, je ne vais pas pouvoir tracer toutes ces planètes, mais j'en ai choisi une autre qui transite aussi devant son étoile et qui a un intérêt parce que quand elle transite, elle fait une toute petite occultation. Et en fait, on a pu mesurer la taille de cette planète. Et on voit la taille relative par rapport à Jupiter. Et le rapport, la densité de cette planète est extrêmement élevée, ce qui a conclu, les découvreurs, qui a permis de les découvreurs de conclure que cette planète devait avoir un noyau extrêmement massif, probablement plus d'une cinquantaine de masses terrestres. Et cette planète étant autour d'une étoile de forte métallicité, on pense qu'il existe une relation entre la métallicité des étoiles et la structure des planètes, tant sur la taille, mais même la structure interne des planètes, et c'est ce qui a été montré par Tristan Guyot de l'Observatoire de Nice. Enfin, je vais terminer en vous montrant que l'imagination est encore extrêmement fructueuse, puisque Alain Léger et ses collaborateurs de l'Institut d'astrophysique d'Orsay ont montré qu'il pouvait y avoir des planètes océans. Il a imaginé finalement des planètes comme Uranus ou Neptune qui migrent, comme ces Jupiters chauds migrent proche de leur étoile. Donc ces Neptune ou ces Uranus qui contiennent énormément de volatiles peuvent migrer, et s'ils migrent, ils contiennent énormément de volatiles. Les volatiles peuvent former, il y a l'eau en grande quantité, et on peut former un océan de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et au-dessus d'une couche de glace haute pression et d'une structure interne un peu plus classique. Et voilà donc comment Alain Léger et ce collaborateur s'imaginent ces planètes océans qui doivent être un peu plus grosses que la Terre. Et donc, tout à fait possible à observer avec le satellite Corot, qui, comme vous le savez sans doute, a été lancé à la fin de l'année dernière et qui, il semble, fonctionne parfaitement actuellement. Et donc, je ne serais pas étonné que si vous m'invitez dans 2 ans, comme vous l'avez proposé de le faire, un bilan de l'activité de ce colloque, je pense que la personne qui présentera les planètes extrasolaires dans 2 ans aura probablement beaucoup plus de choses à dire que moi sur ces planètes océans et entre autres l'observation de ces planètes océans avec le satellite Corot. Alors, je vais conclure en faisant un vœu, c'est que j'ai réussi à vous convaincre que les planètes extrasolaires étaient très différentes de celles du système solaire et que finalement les planétologues ne doivent pas se restreindre à l'étude de 8 planètes du système solaire et les astéroïdes et les plutinos et autres objets, mais qu'ils ont devant eux finalement un vaste champ d'investigation avec plus de 200 planètes qui ont toutes des propriétés extrêmement diverses et remarquables. Et entre autres, parmi ces 200, il y a quand même quelques objets pour lesquels on a des éléments pertinents pour la compréhension de la nature et même de l'origine de ces objets. Alors donc ça, tout cela apporte des nouvelles contraintes observationnelles pour la formation et l'évolution des systèmes planétaires. Et je me semble qu'on peut voir la diversité comme un nouveau champ d'investigation pour la planétologie. Et il me semble que ces deux points montrent qu'il y a une interaction possible dans les deux sens. C'est-à-dire que les astronomes observent des planètes, découvrent des planètes de type nouveau et donc apportent des éléments à la planétologie. Et inversement, comme vous avez pu le voir au cours de cet exposé, on a besoin des connaissances de la planétologie pour mieux comprendre les objets que l'on découvre. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Alain Lecavellier faire le point sur les nouvelles planètes que l'on découvre chaque jour un peu plus nombreuses au-delà de notre système solaire. Sur ce sujet, nous vous invitons à poursuivre votre écoute en vous dirigeant sur l'émission Éclairage en compagnie de Tristan Guillot pour percer le secret des exoplanètes. Cette troisième partie du colloque dédiée à la formation du système solaire se termine ici. Nous vous invitons à poursuivre par la quatrième et dernière partie de ce colloque consacrée au futur des missions d'exploration du système solaire. Retrouvez également sur notre site les deux premiers volets consacrés au contexte astrophysique de la naissance du système solaire ainsi qu'à l'évolution de la nébuleuse protosolaire. Des interventions de chercheurs, physiciens enregistrées au cours d'un grand colloque organisé à l'Académie des sciences en février 2007. Retrouvez bien sûr l'ensemble de ces interventions sur notre site canalacademy.com. Alors à très vite pour de nouvelles émissions.